Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Il est 6h58 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Si vous arrivez, on est vendredi 12 juin. Bon début de week-end pour certains. À la une de l'actualité aujourd'hui, les obsèques cet après-midi de la petite Liana dans le Gers. L'émotion, bien sûr, vous l'entendrez dans les journaux d'RMC, l'émotion. Et le débat, la France doit-elle se doter d'un fichier accessible à tous qui regroupe les pédocriminels, leur identité? Vous intervenez au 32-16. La proposition a été lancée. Attention, danger, nous dira Arnaud Gallet, qui défend les enfants victimes de violences, victimes lui-même dans son enfance. Il en a témoigné. Je lui demanderai aussi, tiens, si le ministre de la Justice peut rester en poste. LFI, le PS, les Verts, RN, demande la tête de Gérald Darmanin. C'est le débat RMC à 7h50. Et vous en pensez quoi? Vous nous le dites ce matin. Est-ce que Gérald Darmanin peut rester en poste? Une démission, ça changerait quoi? Je vous attends au 32-16. C'est Clément qui vous accueille au standard. Pensez à le saluer. Vous écrivez un petit message aussi sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424. Et puis tiens, une petite question. Est-ce qu'une prime de match, ça vous intéresse? RMC vous fait gagner 30 000 euros pendant la Coupe du Monde. 30 000 euros, on rajoute 500 euros par but marqué dans la compétition. Alors depuis hier soir, ça fait déjà 32 500 euros pour vous. On joue ensemble, restez bien à l'écoute. On joue ensemble à tout moment d'ici 9h. Dans un instant, le journal de 7h, mais à 6h59, Anthony Kaczmarek. Un peu de soleil aujourd'hui, non?
Et même beaucoup de soleil,
sur
les deux tiers sud du pays, mais pas forcément ce matin. Ce matin, ça reste très gris sur toute la moitié nord, au nord d'une ligne La Rochelle-Orléans-Besançon. Mais alors cet après-midi, le soleil va gagner du terrain vers la Bretagne, Pays de la Loire, l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. Ça restera assez gris toutefois sur les frontières du nord, jusqu'à l'Alsace avec encore quelques gouttes, du vent encore près de la Méditerranée, et puis des températures qui grimpent, ça y est, la hausse débute, 8 à 20 degrés ce matin, et cet après-midi entre 17 et 27 degrés sur la moitié nord, 24 à Paris, 27 à Rennes, et 25 à 32 sur la moitié sud, 28 à Bordeaux, 32 pour Marseille et Perpignan.
La météo sur RMC, avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les États-Unis et l'Iran sont-ils sur le point de signer un accord? C'est ce qu'affirme Donald Trump, qui a annulé les frappes prévues hier soir sur le pays. Téhéran dit n'avoir rien acté. Nous serons en direct de Los Angeles. C'est parti pour 5 semaines de compétition. Le mondial a bien démarré avec une victoire tout à l'heure de 2-1 de la Corée du Sud contre la République tchèque. Et puis un nouveau rebondissement dans l'affaire Liana. Les États-Unis avaient déjà alerté sur le comportement en ligne de Jérôme Barella.
Alors cette fois, est-ce que c'est la bonne? Donald Trump assure qu'un très bon accord, je le cite, très bon accord a été trouvé avec l'Iran.
Le président américain l'a affirmé hier soir depuis le bureau ovale, juste après avoir annulé des frappes prévues contre le pays.
Nous venons de trouver un très bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, et une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe, et c'est une excellente chose.
Nicolas Pelletier, vous êtes en direct des États-Unis ce matin à Los Angeles pour RMC. Pour l'instant, l'Iran dément de son côté, Nicolas.
Oui, l'Iran n'a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l'accord. Voilà ce que dit ce matin le porte-parole de la diplomatie iranienne à la télévision d'État. Téhéran n'a donc pas encore tranché. Version très différente de Donald Trump, qui hier n'a pas dévoilé le contenu de ce possible compromis. Mais le président américain a quand même assuré qu'il entraînerait une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Il avait même ajouté que le guide suprême iranien avait validé cet accord. Comme pour apaiser la situation, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé sur son réseau social qu'il annulait toutes les frappes prévues contre l'Iran. Ces deux derniers jours de bombardements massifs ont pu faire bouger les lignes, même si la prudence est de mise. En début de semaine, Donald Trump avait déjà promis un accord avec l'Iran avant subitement de faire volte-face. Si cet accord est signé en Europe dans les prochaines heures, Donald Trump ne s'y rendra pas. Il enverra son vice-président Jed Evans. Le président américain accueille dimanche un tournoi de MMA à la Maison-Blanche, le jour de son 80e anniversaire.
Nicolas Pelletier en direct des États-Unis pour RMC.
Et le face-à-face ce matin sur RMC BFM TV à 8h30, Marie Chantrey reçoit le général Patrick Dutartre, général de l'armée de l'air, pilote de chasse et ancien leader de la patrouille de France.
C'est une des conséquences de cette guerre, la flambée des prix du carburant qui devait être amortie par le coup de pouce du gouvernement, une aide de 100 euros qui devait être versée la semaine dernière aux grands rouleurs, mais il faudra encore attendre quelques jours. Information RMC qu'on vous détaille dans le journal de 7h30.
Et que vous pouvez d'ailleurs déjà détailler au 32-16, vous avez fait cette demande, vous attendez le chèque, il n'est pas arrivé, vous nous le dites au 32-16. Il est 7h03, ça y est, la Coupe du Monde a officiellement démarré.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et on la vit minute par minute sur RMC avec la victoire il y a une heure environ de 2-1 de la Corée du Sud contre la République tchèque. Hier soir, c'est le Mexique qui a ouvert le bal après une cérémonie d'ouverture. Shakira a laissé place au jeu et les Mexicains ont parfaitement démarré leur mondial. Victoire 2-0 contre l'Afrique du Sud, Edgar Grollo.
Une ambiance de dingue au coup d'envoi, 2 buts pour le Mexique. Certains supporters en ont pleuré et tous ont vécu un moment hors du temps.
J'avais la chair de poule, c'était incroyable. On était là dès 7h du matin en train d'encourager le Mexique. Il n'y a pas deux pays comme nous, vive le Mexique.
Une atmosphère unique qu'ont ressenti les joueurs comme le défenseur Israël Reyes.
Dès notre arrivée au stade, on entendait les supporters. Ils l'ont vécu d'une manière unique, ils ont profité et on l'a ressenti à chaque instant.
Son coéquipier, le milieu de terrain Eric Lira, n'en revient pas.
Je crois que je ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Ça faisait 40 ans qu'on attendait ça. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Du coup, je me rends compte que tous mes efforts pour en arriver là en ont vraiment valu la peine.
Au-delà du résultat, le Mexique est entré dans l'histoire du football hier. C'est le premier pays à accueillir 3 éditions de la Coupe du Monde.
Et pendant ce temps, les Bleus se préparent avant leur match contre le Sénégal mardi. Ils ont pris leur quartier à Boston. Premier entraînement sous 30 degrés hier.
Il est 7h04 sur RMC. La commune de Fleurance s'apprête à dire adieu à Liana.
Les obsèques de la collégienne de 11 ans cet après-midi dans cette commune du Gers. Cérémonie ouverte au public avant une inhumation dans la plus stricte intimité. La petite fille retrouvée morte il y a une semaine. Et depuis hier, il y a de nouvelles révélations. Celle du journal Le Monde sur le suspect Jérôme Barella. Son comportement en ligne avait alerté jusqu'aux États-Unis, des signalements transmis ensuite aux autorités françaises et pourtant jamais exploités, Nicolas Ginestière.
Ces alertes provenaient du NECMEC, organisme américain de lutte contre la pédocriminalité. Sa spécialité, centraliser des données sur les activités suspectes en ligne d'internautes et les communiquer aux polices de chaque pays. Plusieurs alertes avaient été transmises à l'Office des mineurs en France sur le comportement suspect d'un individu, identifié depuis comme Jérôme Barella. Ces signalements n'ont été découverts qu'après le début de l'affaire Liana, quand policiers et gendarmes ont reçu l'ordre d'investiguer sur le quadragénaire. Chaque année, près de 200 000 signalements sont transmis à l'Office des mineurs par le NECMEC, selon une source à BFM TV. Bien souvent, ils ne mentionnent pas d'identité précise, mais des informations partielles, comme un simple pseudonyme.
Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, se dit tout à fait favorable à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de la justice dans cette affaire, à condition, dit-elle, que cela n'empêche pas d'agir. Comme d'autres hommes politiques et femmes politiques, Jordan Bardella estime que ses défaillances auraient dû pousser Gérald Darmanin à présenter sa démission par honneur. Mais le garde des Sceaux a toute la confiance du Premier ministre, Sébastien Lecornu.
Moi, vous savez, si j'ai souhaité tenir depuis le début le gouvernement loin des affaires partisanes, loin de l'élection présidentielle, c'est précisément pour ne pas être perturbé par tout cela. Ce qui me permet de redire évidemment la confiance dans l'action que le garde des Sceaux est en train de mener. C'est bien que le gouvernement justement se tienne loin des affaires politiciennes.
Et la question de la réponse à donner à l'émoi de toute la nation finalement après cette affaire, qu'est-ce qu'il faut changer? On va en parler dans un instant. Et puis le débat sur Gérald Darmanin, est-ce qu'il peut tenir à son poste encore? Ce sera le débat voix de droite, voix de gauche à 7h50 sur RMC tout à l'heure.
Le verdict dans le procès de la mort d'Elisa Pilarski, son compagnon Christophe Hellul, condamné à 4 ans de prison avec sursis. Son pitbull Curtis devra être euthanasié. Le tribunal a estimé que le maître a entraîné son chien jusqu'à ce qu'il soit conditionné à l'attaque. C'est après ces graves morsures qu'Elisa Pilarski avait été retrouvée morte il y a 7 ans.
Dans une heure, les élèves de première vont plancher sur la toute nouvelle épreuve du bac en maths.
Une épreuve anticipée pour les premières générales et technologiques, des candidats qu'on imagine forcément stressés d'essuyer les plâtres de ce nouvel examen. Ils témoignent au micro RMC de Louise Salé.
Cette épreuve ne représente que 2% de la note finale du bac, mais Fatima la redoute beaucoup.
On nous a mis une très grosse pression, on nous a dit que cette année qu'on aurait un bac, sachant que l'an dernier il n'y avait pas ça. On ne voulait pas du tout faire maths, donc nous l'imposer, c'est extrêmement dur. Là, je ne sais même pas si, par exemple, moi je vais m'en sortir avec plus de 5 sur 20.
Une contrainte angoisse, surtout les candidats, l'interdiction de la calculatrice.
Il va falloir faire des calculs par nous-mêmes, mais ça prend plus de temps.
Enfin, pendant des années, on apprend à calculer avec la calculatrice, et là, d'un coup, on les enlève. Et je pense que c'est pour ça, en fait, il y a ce stress à cause de... Il n'y a pas de calculatrice, c'est nouveau. On ne sait pas, on voit en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre.
Depuis quelques années, près de 60% des bacheliers en filière générale ne passaient aucune épreuve écrite du bac en maths. Vincent Lautoré, qui enseigne cette matière dans un lycée parisien, se réjouit donc de ce nouvel examen.
C'est plutôt un signal positif de se dire que, de nouveau, on considère que tous les élèves doivent faire des mathématiques. Ils vont être habitués à travailler davantage sur la calculatrice aussi en cours. C'est a priori plutôt une bonne chose sur le long terme.
L'épreuve dure au total 2 heures. Elle comporte un questionnaire à choix multiples et plusieurs exercices de raisonnement.
Et puis encore un mot de football, ça a été officialisé hier. José Mourinho de retour au Real Madrid 13 ans après l'avoir quitté le Portugal, donc le nouvel entraîneur, avec l'objectif de relever l'équipe qui n'a pas gagné de titre majeur depuis 2 saisons.
Et il arrive à faire parler de lui en plein lancement de la Coupe du Monde. C'est aussi assez incroyable, belle performance déjà. Merci Clara Gabillet, c'était le journal. On va accueillir David qui est en ligne avec nous depuis l'Oise. Bonjour David.
Bonjour.
Et on parlait ce matin du démarchage téléphonique dans le Morning RMC, notamment avec Victor, 4 fois plus de signalements, l'intelligence artificielle qui fait que ça explose, on est appelé par des machines. David, c'est votre quotidien, j'ai l'impression.
Oui, exactement. Et en plus, sur des horaires, apparemment, on a l'impression qu'ils savent à quelle heure nous appeler. C'est toujours la pause déjeuner, c'est vers 18h, c'est vers 20h.
Vous avez raison, ça, David, j'avais jamais pensé. Ils m'appellent toujours quand je suis dispo.
Voilà, c'est ça.
Non mais c'est à croire qu'on est scruté. Aujourd'hui David, il y a un petit changement de paradigme. Vous pouviez jusqu'à présent vous inscrire sur Bloctel et dire je ne veux pas être démarché. Dorénavant vous serez considéré comme non consentant par défaut. Vous y croyez? Vous croyez que ça va calmer ce démarchage intempestif?
Sincèrement je n'y crois pas une seule seconde. Parce que quand on voit la multitude de numéros qu'ils utilisent pour vous appeler, bon ils ont toujours les mêmes préfixes, hein, 05, 02. Mais vous avez beau les bloquer, j'ai Bloctel, j'ai plusieurs applications, sauf la dernière dont vous aviez parlé. Là. Mais je les bloque systématiquement, mais ça ne change rien du tout. C'est toujours un autre numéro.
Oui, non, ça change, ils changent de numéro, on dirait des fixes. Bon, David, merci beaucoup. On verra aussi ce qu'il en est pour les appels qui viennent de l'étranger. Énormément de réactions ce matin, vous continuez au 3216 et sur le WhatsApp RMC, le 0612 424 424. Il est 7h10 sur RMC. Est-ce qu'un fichier regroupant les pédocriminels accessibles à tous aurait pu empêcher la mort de la petite Liana? On se pose la question ce matin. Bonjour Arnaud Gallet.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Mouv'Enfants qui veut mieux protéger les mineurs. Vous y êtes opposé. Attention au danger que ça créerait, c'est votre parti pris dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h13 sur RMC et RMC Story. Le temps va s'arrêter aujourd'hui à Florence, dans le Gers, les obsèques de la petite Liana, 11 ans. Elles se tiendront à 14h30. Écoutez l'émotion ce matin de deux de ses camarades de classe, Mathéo et Louis, qui seront présents cet après-midi.
On était en primaire ensemble, on était dans le même bus. On était au collège ensemble aussi. C'est dur.
Et c'est vous qui avez insisté auprès de vos parents pour aller à son enterrement?
Oui, parce que c'est quand même important. C'est une camarade de classe, donc il faut quand même y aller.
Des témoignages recueillis par Julie Brault, qui est à Florence pour RMC ce matin. Bonjour Arnaud Gallet.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Mouv'Enfants. Vous luttez contre toutes les formes de violences faites aux enfants. Vous avez témoigné vous-même de votre vécu victime dès vos 8 ans. Ce matin, vous alertez. Alors que suite au drame qu'est la mort de Liana, les propositions se multiplient. Certains avancent l'idée de créer un fichier public pour les pédocriminels, que tout le monde puisse savoir s'il y a un pédocriminel condamné près de ses enfants. Vous dites attention danger, c'est une fausse bonne idée?
Bien sûr, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que ce soit les forces de l'ordre en fait qui contrôlent ça sans problème, que ce soit tout ouvert au grand public, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça va donner lieu, au bout d'un moment, à ce qu'il y ait des règlements de compte, des choses comme ça, voire même... C'est pas ça ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande éventuellement, on en avait parlé, on pourrait mettre en place un fichier, un peu comme on le fait avec les fichiers S, mais qui est réservé à la police, donc aux forces de l'ordre, à des personnes qui ont donc cette autorité. Imaginez de recenser, par exemple, les personnes qui font l'objet d'une information préoccupante. On sait bien que les départements dysfonctionnent, ça a été prouvé par X rapports. C'est pour ça qu'il y en a ras-le-bol, en fait. À un moment donné, il faut vraiment agir par rapport à ça. identifier aussi les personnes qui font l'objet de signalements, de plaintes qui ne sont pas traitées parce que les plaintes sont très longues, de condamnations bien évidemment, et surveiller ces personnes-là.
Mais pour les forces de l'ordre, pas pour la
bien sûr, pour les forces de l'ordre, bah, sinon ça peut donner
directeur d'établissement scolaire éventuellement.
Mais bien sûr.
Dans un sondage publié cette semaine, on lisait que trois quarts des parents estiment que leur enfant n'est pas en sécurité dans la société. Cette idée d'un fichier public, si elle émerge, c'est aussi qu'il y a l'idée que l'État ne protège plus, alors nous citoyens, on doit se débrouiller.
Oui, je pense que en fait, ce qui manque aujourd'hui, et c'est pour ça que je comprends cette peur au niveau des parents, c'est une obligation de résultat dans tous les lieux d'accueil, en fait, au niveau des enfants. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on confie les enfants à l'aveuglette, en fait. On devrait avoir des garanties en matière de sécurité, ce qu'on n'a pas. Enfin, je veux dire, moi, le premier, je dépose mon enfant à l'école, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Eh ben, il faudrait peut-être être transparent par rapport à ça, savoir réellement ce que fait l'école aussi dans la lutte contre les violences faites aux enfants et tous les lieux qui accueillent les enfants, pour qu'on soit en capacité nous-mêmes de nous rassurer et d'avoir confiance, en fait, par rapport à ça.
On parle de fichiers, les fichiers encore, faut-il lire ce qui existe? On l'entendait dans le journal de 7h, Le Monde révèle que des alertes avaient été émises aux États-Unis sur le comportement en ligne de Jérôme Barella, des alertes qui avaient été transmises à l'Office des mineurs en France. Vous avez régulièrement dit que vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe, parce que vous alertez sur la situation. Toujours pas surpris?
Non, pas surpris, parce que une fois de plus, c'est ce qu'on dit, il y a un dysfonctionnement systémique. C'est un système, en fait, qui, pour x, y raison, systématiquement, on est dans les mêmes affaires. On l'a bien vu avec l'affaire Joël Le Squarnec, on l'a vu avec bien d'autres, donc qui était chirurgien, par exemple, qui a fait plus de 300 victimes. On le voit systématiquement. On l'a vu avec l'affaire Marina, cette petite qui a été tuée, notamment par son beau-père, malgré le fait qu'il y ait par ses parents.
Vous dites qu'on peut chercher la responsabilité d'un tel ou d'un tel, mais que là, il y a un problème global.
Mais bien sûr, il y a un problème global et qui est sourcé depuis combien de temps par les commissions. Enfin, moi, quand j'entends tout à l'heure qu'il y a encore une nouvelle commission d'enquête qui va se mettre en place, certains parlent d'un Grenelle de l'enfance, mais qu'ils arrêtent avec ça.
Je vais rappeler que vous étiez membre de la CIVIS, la commission indépendante sur les violences faites aux enfants. Vous avez produit 2 ans de travail, 80 propositions. Ce rapport de la CIVIS, aujourd'hui, il cale une étagère.
Bah bien sûr, comme bien d'autres rapports. En réalité, c'est tout. On a fait combien de commissions, combien de Grenelles, combien machin. Enfin, ils vont nous faire quoi? Ils vont nous faire une commission. Après, ils vont nous faire une convention citoyenne. Enfin, sincèrement, on a toutes les solutions, on a toutes les ressources dans ce pays, qu'on arrête un peu au bout d'un moment de mettre en danger les enfants. C'est quand même quelque chose qui est important. Quand même, faut qu'on arrête maintenant.
Mais alors, les associations de protection des enfants dont vous êtes, vous allez poursuivre les manifestations devant les tribunaux les lundi soir à venir. Du coup, vous allez poursuivre ces manifestations pour réclamer quoi?
Devant les tribunaux et devant, très important, le ministère de la Justice, parce qu'on va demander en fait la mise en place d'une loi intégrale.
Vous y étiez lundi dernier d'ailleurs.
Bien sûr, et puis on va continuer à y aller pour demander une loi intégrale, comme ça s'est passé en Espagne en 2004. Nous, on se pose encore la question dans ce pays de se dire, est-ce qu'il faut une loi intégrale pour qu'on puisse...
C'est pas qu'on se pose la question, c'est qu'on compte les sous.
Oui, non, d'accord.
L'Espagne, elle a investi.
L'Espagne, elle a dû compter ses sous aussi, hein, je veux dire, à un moment donné, sauf que quand on voit les répercussions des violences, en fait, et le coût que ça a au niveau de la société, je rappelle que la CIVIS disait que le coût du déni, aujourd'hui, ça nous coûte 9,7 milliards. Si on veut faire aussi des économies, au bout d'un moment, il faut investir. Donc ça, c'est important, quand même. C'est pour ça que ce débat, il n'a pas au niveau des coûts, en fait, il n'y a pas de sujet. Pourquoi est-ce qu'on débloque des milliards pour le Covid avec un principe de précaution? Et pourquoi est-ce que sur les violences faites aux femmes et aux enfants, on fait rien par rapport à ça en invoquant quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme d'économie? Mais c'est scandaleux quand même. C'est-à-dire
Vous avez évoqué le ministère de la Justice où vous allez manifester. Le ministre de la Justice lui-même, Gérald Darmanin, il est sous pression, hein, des opposants politiques qui réclament sa tête. Sébastien Lecornu lui a redit sa confiance. Est-ce qu'il a la vôtre ou est-ce que vous demandez aussi sa démission?
Écoutez, moi, initialement, j'étais pas favorable forcément à sa démission. Je demandais des actions d'urgence, etc. Mais sincèrement, vu le mépris en fait de Gérald Darmanin, vu le mépris également. Bien sûr, c'est du mépris. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui consiste à dire là où tout le monde dit qu'il y a un dysfonctionnement systémique. Même la justice, c'est le syndicat national de la magistrature qui publie en 2024 un rapport rouge qui s'appelle « La justice ne protège pas les enfants ». Enfin, je veux dire, c'est pas plus clair comme titre. On a l'impression qu'il découvre. Et il était en plus ministre de l'Intérieur avant. Alors certes, aujourd'hui, il est en fonction, en responsabilité par rapport à la justice. Mais on voit bien que dans cette affaire, il y a quand même aussi une histoire de services de police qui n'ont pas forcément les moyens d'agir, ou de gendarmerie. Et là aussi, c'est essentiel quand même de le rappeler.
Ce sera l'objet du débat à RMC à 7h50. Notre voix de droite et notre voix de gauche qui ne sont pas d'accord. On les écoutera, Charles Consigny et Cécile Duflot. Merci Arnaud Gallet.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'être venu en studio ce matin sur RMC. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Move Enfant. Il est 7h19. Et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'historien d'Apolline Matin. Arthur, aujourd'hui, une question. Comment prouver son innocence 80 ans après?
C'est la question que se pose actuellement la justice avec une affaire emblématique, celle de deux chasseurs accusés d'avoir tué un homme en 1946. C'est un des meurtres les plus mystérieux de l'histoire judiciaire.
Et dans le face-à-face à 8h30, l'invité de Marie Chantré, c'est le général de l'armée de l'air, Patrick Dutartre. Et dans moins de 5 minutes, Arnaud Demange va arriver pour pirater l'interview. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Quand l'histoire éclaire notre actualité, il est 7h21 sur RMC, RMC Story, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Une audience pour l'histoire a eu lieu hier. La cour de révision s'est penchée sur l'un des plus gros scandales judiciaires de ces 80 dernières années, l'affaire Miss Etienneau.
Oui, Miss Etienneau, c'est le nom de deux hommes reconnus coupables de meurtre en 1946. Alors, ils ont toujours plaidé leur innocence. Aujourd'hui, ils sont morts, mais leurs enfants ont pris le relais pour les faire réhabiliter par la justice. « Je suis devant vous pour laver l'honneur de mon père », c'est ce qu'a déclaré hier le fils de Gabriel Etienneau, un des deux accusés. C'est un événement puisque depuis 1945, seulement 11 affaires ont eu le droit à un procès en révision.
Mais alors de quoi s'agit-il ?
Alors tout commence par un drame, Mathieu. Le 31 décembre 1946, on retrouve un corps criblé de balles dans un étang de Saint-Michel-en-Brenne. Saint-Michel-en-Brenne, c'est une petite commune de l'Indre. Ce corps, c'est celui d'un garde-chasse qui s'appelle Louis Boitard. Une enquête est ouverte et rapidement, on accuse un groupe de chasseurs qui auraient été contrôlés par ce garde-chasse, donc la victime. C'est ce contrôle qui aurait mal tourné. Les chasseurs se seraient énervés, ils auraient ensuite abattu le garde-chasse. A priori, tout ça tenait à peu près debout.
Et du coup, la police arrête les chasseurs ?
Exact. Et après quelques jours, les chasseurs passent aux aveux en reconnaissant le meurtre du garde-chasse. Les coupables désignés s'appellent Raymond Miss et Gabriel Etienneau. Ils sont incarcérés à la prison de Châteauroux. Et alors qu'on pensait l'affaire close, l'impensable se produit. Les chasseurs reviennent sur leur déclaration avec une révélation fracassante. Ils prétendent avoir été torturés par les policiers pour qu'ils avouent leur crime pendant l'enquête. Un crime dont ils se disent finalement innocents.
Mais en 1950, la justice va quand même les condamner.
Absolument. Elle va les condamner à 15 ans de travaux forcés, c'est pas rien. Mais c'est pas fini. Puisque l'affaire fait tellement de bruit que l'opinion publique, les médias se mobilisent. Du coup, ça remonte au sommet de l'État. Le garde des Sceaux de l'époque ouvre une enquête qui va notamment confirmer que les accusés ont bel et bien été frappés par les enquêteurs pendant leur interrogatoire. Il y a aussi eu beaucoup d'autres dysfonctionnements. En tout cas, tout ça, c'est assez d'éléments pour que le président de la République de l'époque, René Coty, accorde une grâce aux condamnés. C'était en 1954. Alors attention, cette grâce leur permettait de retrouver leur liberté, mais pas d'être innocentés.
Alors Raymond Miss et Gabriel Etienneau vont ensuite essayer de prouver leur innocence.
Ils vont même, Mathieu, y consacrer toute leur vie. De 1980 à 2015, 6 requêtes vont être déposées pour que leur procès soit révisé. En vain, puisqu'il y a eu 6 refus nets. Gabriel Etienneau meurt en 2003, Raymond Miss en 2009. C'est ensuite leur famille qui reprennent le flambeau. Et finalement, en février 2026, la justice accepte la révision du procès. L'audience a donc eu lieu hier. Le résultat sera connu le 2 juillet.
Histoire incroyable. Merci Arthur Chevalier de l'avoir partagé avec nous, avec nos auditeurs, l'historien d'Apolline Matin. Une chronique à réécouter sur le podcast, sur le site, sur l'application RMC, bien entendu. Il est 7h24.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Il est là. Bonjour Arnaud Demange.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité de Marie Chantré, c'est le général de l'armée de l'air, Patrick Dutartre.
Oh, merci. Enfin. Vous savez que j'ai prié tous les jours les dieux de l'humour pour avoir un sujet feel good. Et enfin, j'ai été entendu. La guerre en Iran. Oh, merci Saint-Coluche. Vous savez que tous les humoristes prient Saint-Coluche. Les chrétiens, ils ont un crucifix au-dessus du lit parce que Jésus est mort comme ça. Nous, les humoristes, au-dessus du lit, on a un pare-choc de semi-remorque. Ah ouais. Bref, aujourd'hui, on reçoit le capitaine des caries. Pardon, le colonel des gingivites, pardon, le général Dutartre.
Oh, ouais.
Parce que la guerre en Iran continue. Parce qu'on l'oublie, mais...
Eh.
Encore, hein. Oh là là.
Ouais.
Quelle histoire, ça, vraiment, c'est long. Hein.
C'est fou.
C'est long, c'est long. C'est long et pas fun. On dirait plus belle la vie. Et alors, Donald Trump a annoncé 39 fois... qu'un accord était imminent avec l'Iran.
Mais là, c'est imminent.
C'est imminent maintenant, ouais, 40 ouais. fois. Je me suis dit, il se fout de notre gueule. Et en fait, hier, je l'ai entendu dire, Marco Rubio est quelqu'un de totalement imminent. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est ça. Il sait pas ce que ça veut dire. Allez, on va tout de suite basculer sur BFM TV pour voir où ça en est. Et vous êtes bien sur BFM TV. On va tout de suite faire le point sur la situation en Iran avec notre envoyé spécial, Ulysse Grossier. Ulysse, ça va ? Ouais, ma couille. Ulysse, attention, il y a des enfants qui écoutent. Ulysse Grossier, alors, comment c'est la situation là-bas ? Bah, c'est une situation pourrave, hein. Le détroit, il est fermé, il y a des millions de gens qui attendent devant, ils peuvent pas rentrer. C'est l'inverse de ta mère. Non, Ulysse Grossier. Même pour vous, c'est grossier. En bas les steaks. Puis on nous casse les noyaux avec le Détroit, ça fait 4 mois qu'il est fermé, on roule quand même en bagnole, hein. Vous voyez, Hormuz, c'est comme François Hollande, on vit très bien sans. C'est pas indispensable de revenir au stade d'avant. C'est pas faux, Ulysse Grossier. Donald Trump a dit l'autre jour qu'il signerait la paix avec l'Iran à condition que les pays du Golfe signent les accords d'Abraham. Vous savez ce que c'est les accords qui prévoient que tous les pays arabes se rapprochent d'Israël. Donc pour en fait débloquer le Détroit, il faut simplement que les juifs et les musulmans fassent la paix.
C'est simple.
C'était facile. Que tous les imams et les rabbins de la planète fassent une grande farandole. Il est à deux doigts de demander à Netanyahou et Khamenei d'aller sur l'île de Jeffrey Epstein, qu'ils se fassent des bisous dans le jacuzzi. Et je serai aussi présent. Oui. J'ai été président de l'Institut du Monde Arabe. Je peux faire avancer les négociations. Par contre, pas plus de 35 degrés dans le jacuzzi, sinon mes pommettes et mon menton risquent de fondre. C'est noté, Monsieur Lang, et rendez-vous avec Patrick Dutartre à 8h30. À tout à l'heure.
Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure tout à l'heure à 8h20. Ouais. Et en podcast quand on veut, sur l'application RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Commencez à connaître cette petite musique, c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match. Oui, une prime de match avec 500 euros par but marqué à chaque moment, à chaque match de la Coupe du Monde. Il y a eu deux matchs hein, cette nuit, donc il y a eu des buts. La prime de match est en ce moment de 32 500 euros. 32 500 euros, alors vous retenez bien le montant de la prime. À tout moment, on peut vous appeler et si vous donnez le montant de la prime exacte, vous la remportez. 32 500 euros, c'est simple. Et pour jouer, vous inscrivez maintenant, vous envoyez but au 7-32-16. But, je l'appelle B-U-T, au 7-32-16.
Jamais.
Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 7h28, pile, vous avez jusqu'à 7h38. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Dans un instant, la météo et le journal, vous restez bien sur RMC, à tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thomas Becker. Bonjour Thomas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Du retard à l'allumage pour le versement du chèque carburant. C'est une information RMC ce matin. Les paiements devaient commencer la semaine dernière. Des témoignages accablants contre le père de Jérôme Barella. Ses petites filles, par alliance, dénoncent des viols. Vous entendrez leurs témoignages dans ce journal. Et puis ça y est, la Coupe du Monde est lancée. Les Bleus regardent les premiers matchs depuis Boston et s'entraînent sous une chaleur écrasante. RMC est allé prendre de leurs nouvelles.
Les aides de grands rouleurs n'ont toujours pas été versées. C'est une information RMC ce matin. Elles auraient dû être payées la semaine dernière.
Oui, 100 euros débloqués par le gouvernement pour aider les travailleurs modestes qui prennent leur voiture à faire face à la hausse des prix du carburant. À Bercy, on explique que le retard est lié à l'ampleur du nombre de dossiers déposés. 833 000, c'est un chiffre qu'on vous révèle ce matin. Ameline Lafchin, les premiers versements auraient dû intervenir la semaine dernière.
Oui, mais ils n'arriveront finalement pas avant la semaine prochaine, indique Bercy, mardi ou mercredi, pour les premiers automobilistes à avoir fait la demande dès l'ouverture du guichet le 27 mai dernier. Un retard inexcusable pour Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
On a promis 100 balais en mars aux Français et on n'est même pas capable de leur donner. L'État a répondu avec mépris par une prime soi-disant gros rouleur qu'il n'est même pas en capacité d'honorer en termes de promesses.
La raison de ce retard, le succès de l'opération, explique Bercy, car à ce jour, selon nos informations, 833 000 demandes ont été déposées.
S'il y a plus de demandes que prévu, c'est bel et bien que les Français n'en peuvent plus. Puisqu'il y a un retard à l'allumage, on essaie de se justifier en disant que ce sera fait la semaine prochaine, que tout est en cours, mais la définition de en cours, ça veut dire pas fait.
Le ministère de l'économie assure tout faire pour revenir au délai promis de 10 jours entre la demande et la date du versement.
Alors on va faire très simple, vous avez fait la demande pour obtenir cette aide grand rouleur et vous attendez le chèque qui n'est pas arrivé à temps, vous témoignez au 3216 ou sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. En attendant, une bonne nouvelle pour ceux qui prennent la voiture, enfin on l'espère, le prix du baril est en baisse ce matin, il repasse sous les 90$, conséquence directe des derniers propos de Donald Trump.
Qui assure qu'un très bon accord a été trouvé avec l'Iran. Une annonce juste après avoir annulé des frappes prévues contre l'Iran hier soir. Ce matin, beaucoup d'interrogations subsistent, notamment sur le contenu de l'accord que Donald Trump n'a pas dévoilé. De son côté, l'Iran temporise en précisant qu'aucune décision n'est prise pour le moment.
Il est 7h33 sur RMC, c'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de Liana à Florence.
Et la cérémonie d'hommage aura lieu à 14h30, un peu plus d'une semaine après la découverte de son corps. La famille appelle ceux qui le souhaitent à se joindre à eux pour les entourer. Et dans le sillage de cette affaire, on apprend que le père de Jérôme Barella, principal accusé, fait lui l'objet de plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Des témoignages accablants de ses petites filles par alliance. Maxime Cliarouza du service police-justice d'RMC. À l'époque, les deux fillettes dénoncent les faits, mais le père de Jérôme Barella n'est pas inquiété.
Maëva a 12 ans en août 2018. Elle passe les vacances chez sa grand-mère. Le compagnon de cette dernière l'accompagne au moment d'aller se coucher.
Il est venu se mettre sous les mêmes draps que moi. Il a enlevé son pantalon. J'étais dos à lui, donc il se frottait derrière moi. Je comprenais pas, en fait. Jusqu'au moment où ça s'est reproduit encore et encore. Et en fait, au fur et à mesure, ça plombait sur le moral. Et je me suis dit, c'est pas normal.
Elle assure avoir été soutenue par sa mère, mais l'affaire est classée sans suite. Pourtant, 5 ans plus tôt, sa demi-sœur Priscilla accusait déjà Joël Barella de l'avoir violée. Elle avait 13 ans et lui 58.
Soi-disant, une fois, sans le faire exprès, je lui aurais touché le sexe. Et du coup, ça l'a excité. Ça a commencé à se frotter à moi. À part ma maman, mon beau-père et la maman de ma sœur, personne ne m'a cru. J'étais une menteuse. Mais j'aurais jamais menti sur un truc aussi gros. Il a détruit ma vie.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue dans cette affaire, laissant Joël Barella libre. De son côté, Maëva a encore de l'espoir. Le procureur de Béziers a annoncé avant-hier rouvrir l'enquête pour des vérifications complémentaires.
Maxime Cliarouza du service police-justice d'RMC.
Sera-t-il plus facile demain d'obtenir un rendez-vous chez le médecin ? C'est bien possible, hein, puisque les installations de généralistes repartent à la hausse.
Oui, plus 32% en un an, selon l'assurance maladie. Une éclaircie après plusieurs années de stagnation et de recul. Une tendance qui devrait se poursuivre, Victor Girard, y compris dans les déserts médicaux.
Cette hausse est liée à l'augmentation du nombre de places en études de médecine, autrement dit à la fin du numerus clausus, ce système qui limitait les admissions en deuxième année. Sa suppression a permis d'augmenter les promotions, explique le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Franck De Vulder.
Le nombre de médecins en formation est passé de 3 500 à la fin des années 2000 à aujourd'hui quasiment 13 000 et très bientôt 16 000.
Et bonne nouvelle, les territoires les moins dotés profitent de ces nouvelles installations. Sur les 2810 nouveaux généralistes, près de 900 ont choisi les déserts médicaux l'an dernier. C'est 300 de plus qu'en 2024.
Ces chiffres vont dans le bon sens.
Mais Franck De Vulder estime désormais qu'il faut en faire davantage pour attirer les médecins, notamment les plus jeunes.
Leur donner la chance de pouvoir travailler ensemble, s'organiser ensemble, faciliter leur installation, leur donner envie. Or aujourd'hui, un certain nombre se questionnent parce que c'est un peu le saut dans le vide.
Le président du premier syndicat des médecins libéraux plaide pour la création d'un guichet unique afin de simplifier les démarches administratives et l'installation des jeunes médecins.
Et à 7h36, direction la Coupe du Monde. Premier match, premier but, le mondial est lancé.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et victoire du Mexique pour le match d'ouverture face à l'Afrique du Sud 2-0. Dans la nuit, la Corée du Sud a renversé la République tchèque 2-1. Tous les matchs sont à suivre sur la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. En attendant l'entrée des deux autres pays hôtes, ce sera ce soir le Canada à 21h face à la Bosnie-Herzégovine et les États-Unis contre le Paraguay. Prenons des nouvelles des Bleus qui sont à Boston. Notre envoyé spécial Valentin Jamin est avec eux dans leur centre d'entraînement de la Bentley University.
Arrivés hier après-midi, les Bleus ont été accueillis par une dizaine de fans devant l'université avant d'essayer leur terrain qui sert habituellement au foot américain. Autour, une piste d'athlétisme et une pelouse en très bon état, modifiée à la demande de la Fédération française. Le gardien Brice Samba s'y sent bien.
C'est vaste, ce sont des belles installations et on est vraiment très à l'aise. Donc on mettra tout en œuvre pour bien profiter de ces installations pour être prêt sur le terrain.
À côté, il y a 3 autres terrains, une salle de sport pour les joueurs. Les Bleus ont fait leur première course, les premiers jongles pour monter en puissance et marquer le début du mondial. Pour le défenseur Maxence Lacroix.
Quand on arrive sur le site, on se dit que voilà, c'est bon, on commence cette grande compétition. Tout le monde est excité pour cette belle aventure.
Sous une trentaine de degrés, une chaleur lourde qui n'alarme pas Brice Samba.
Ah, écoutez, il n'y a pas de recette miracle, il faut juste bien s'hydrater, être prêt, conditionné mentalement. On va s'adapter comme toutes les équipes.
L'adaptation continuera aujourd'hui avec un entraînement en public à 15h30 heure locale.
Valentin Jamin, l'un des nombreux envoyés spéciaux d'RMC aux États-Unis.
Et les courses, elles ont lieu à Vincennes. On revient de ce côté de l'Atlantique à 20h15.
Oui, la favorite de la Dream Team des courses RMC, c'est le 4, Jolie Star. Son outsider est le 9, Iguane de Caponnet.
Merci beaucoup Thomas Becker. Comme ça, c'est complet. C'était le journal. Il est 7h38. Et ce matin, il y a deux sujets qui vous font réagir nombreux au 32-16 sur le WhatsApp RMC. D'abord, Victor, les aides carburant pour les grands rouleurs qui n'arrivent pas.
Oui, qui n'arrivent pas. 833 000 demandes à traiter. Et Bercy qui n'arrive pas à suivre. On a Jonathan qui nous dit c'est inadmissible parce que ça a mis beaucoup moins de temps à augmenter à la pompe. Et puis on a Greg qui lui aurait préféré et remet sur la table une éventuelle baisse des taxes. Il nous dit là au moins ça aurait été immédiat.
Et on a aussi cet autre sujet, et là vous êtes mobilisé, le démarchage téléphonique. Désormais, vous serez considéré comme non consentant par défaut, et il faudra avoir accepté de recevoir des appels de démarcheurs. On est harcelé. Pierre est à Toulouse, en Haute-Garonne. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Ce démarchage téléphonique, souvent dopé à l'IA d'ailleurs, avec des on parle à des robots sans s'en rendre compte. Pierre, vous-même, vous le vivez au quotidien?
Bah oui, c'est un ou deux appels par jour, hein. Et en plus j'ai deux téléphones, donc j'étais même mon téléphone professionnel, ils arrivent à l'avoir et à m'appeler dessus. Et moi, ce que je voulais dire, c'est, je pense qu'une loi ne servira même pas à grand chose, parce que on a beau vouloir bloquer les 05, les 02, etc. Maintenant, ils appellent même en 06 ou même en numéro privé. Donc oui, bloquer un numéro privé, c'est impossible. Non. Moi, je participe souvent, j'appelle souvent RMC. Donc en fait, à chaque fois, je crois que c'est RMC qui m'appelle pour un débat.
Ouais, on rappelle en privé, nous, ça se voit
pas.
Ouais.
En fait, c'est Clément qui m'appelle pour les panneaux photovoltaïques ou pour réduire ma facture Engie, quoi.
Pas le même Clément. Le nôtre est plus sympa quand même.
Oui, c'est pas le même Clément. Non.
Puis le nôtre, il essaie pas de vous dépouiller, soit dit en passant.
Du coup,
merci Pierre.
Au début, on est gentil, on leur répond gentiment et on raccroche. Et à la fin, on est un peu plus sévère.
Voilà, on est moins agréable. Et puis, de toute façon, maintenant, c'est une IA qui nous appelle, donc ça sert à rien de s'énerver. On parle à une machine. Pierre, merci beaucoup. Merci de votre appel. On est harcelé d'appels de démarchage. Alors, des 01, des 06, des numéros privés. Il a raison, Pierre. Vous continuez à témoigner. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vous vous souvenez de Curtis? On en avait beaucoup parlé sur RMC, ce pitbull qui a tué Elsa Pilarski en 2019. On a appris hier que le chien sera euthanasié. Et ça vous révolte, Sylvie Roche? Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous représentez l'association Les Amis de Sam. Vous vous opposez à cette décision. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un tout petit instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h44 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Hier, Christophe Hellul a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour homicide involontaire après la mort de sa compagne Elsa Pilarski, tuée en 2019 par son pitbull Curtis. La cour a demandé l'euthanasie du chien et des associatifs se font entendre comme Les Amis de Sam. Bonjour Sylvie Roche. Sylvie Roche, vous présidez cette association de protection animale et vous vous proposez d'accueillir Curtis, c'est ça?
On s'était proposé effectivement d'accueillir Curtis. On avait trouvé, donc on avait donné au niveau du document qu'elle attendait. On avait donné les deux éducateurs qui devaient la suivre, la pension. Donc on avait tout préparé pour effectivement accueillir Curtis et voir si, même si la chance était minime par rapport à ce que ce monsieur lui a fait subir, donc on était prêt à essayer effectivement de le sauver.
Sylvie Roche, on se pose la question, parce qu'on peut évidemment s'émouvoir des mauvais traitements, d'une mauvaise éducation de Curtis, mais ce chien a 8 ans, il a tué en 2019, et depuis, il vit à l'isolement, enfermé depuis les faits dans un chenil. Je reprends des propos, il est dit hors de contrôle, il a mordu son propre maître et une bénévole. Sylvie Roche, c'est pas une cause perdue, Curtis?
Non, c'est on pouvait en tout cas essayer, même si les chances sont minimes aujourd'hui, ça suffit d'avoir la facilité d'euthanasier les chiens. Aujourd'hui, Monsieur Lull donc est le responsable à 100%. J'ai du mal aussi à comprendre, et je suis pas la seule, pourquoi ces 4 ans de prison sont avec sursis. C'est lui qui est allé chercher ce chien. C'est lui qui l'a dressé au combat. On a toutes les preuves.
C'est lui qui a été condamné d'ailleurs, Sylvie Roche. C'est lui qui a été condamné à 4 ans de prison avec sursis.
Avec sursis. Et par contre, on tue Curtis. Mais
alors, il faut le préciser pour nos auditeurs. Jusqu'au jugement, Curtis était considéré en fait comme un scellé. Pièce de justice, fait. Ce qui pourrait le sauver aujourd'hui, c'est un appel pour un nouveau procès. Vous souhaitez qu'un appel soit interjeté?
Non, puisque d'une manière ou d'une autre, Curtis sera euthanasié. Donc c'est pas nous ce que l'on souhaite demander, et c'est ce qu'on va essayer en tout cas à travers notre poste et qui va être mis ce matin, c'est de pouvoir le récupérer, ne serait-ce que je veux dire pour lui donner la possibilité de partir humainement, parce que je veux dire où il est dans cet endroit-là, il ne partira pas. Il ne partira pas avec un brin d'humanité, il ne partira pas avec un brin de chaleur. Et c'est la seule chose aujourd'hui qu'on peut lui donner, qu'on peut lui apporter. et c'est ce que nous souhaitons.
Sylvie Roche, présidente de l'association Les Amis de Sam, merci beaucoup d'être venue vous expliquer en direct sur RMC. Ça vous fait peut-être réagir au 32-16 ce matin, n'hésitez pas, il est 7h46. Dans un instant, le débat RMC avec la voix de droite d'RMC, l'avocat Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et la voix de gauche, l'ancienne ministre Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Après la gauche, c'est au tour du RN de réclamer la démission du ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
L'honneur aurait appelé Gérald Darmanin à présenter au président de la République sa démission pour reconnaître la faute de l'administration dans cette affaire.
Jordan Bardella hier. Alors le débat ce matin, Gérald Darmanin doit-il démissionner? Vous n'êtes pas d'accord, hein? On vous écoute dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Regardez. Le bonus, c'est avec vous, Victor, avec un nouveau clip de l'éternelle Madonna.
Et qui commence avec une porte défoncée, un peu comme ces statistiques sur YouTube. Déjà 2,5 millions de vues en 4 jours. Et puis Madonna danse dans la forêt. Madonna a un laser qui lui sort des parties intimes, on comprend pas bien. Madonna fait des saltos aussi. Et puis Madonna, dans ce clip, a un accident de voiture. Ouais, c'est un peu comme la série des Martin. Madonna fait toujours quelque chose. Dans le clip, présence remarquée d'un parterre de stars. Kate Moss, la chanteuse Sabrina Carpenter qui chante dans le morceau. L'acteur Benedict Cumberbatch. Je vous cite aussi, il y a un footballeur britannique, Cole Palmer. Il y a même la fille de Madonna. Le titre s'appelle Confession 2. Et ce titre, il annonce la sortie d'un futur album. Le 15e de Madonna, sortie prévue le 3 juillet prochain.
RMC, Apolline Matin, le débat.
Le débat RMC, c'est avec vous, Cécile Duflot, ancienne ministre, voix de gauche d'RMC, et vous, Charles Consigny, avocat et voix de droite. La pression toujours plus forte sur Gérald Darmanin.
Monsieur Darmanin, il aurait dû démissionner. Mais il aurait dû au moins avoir cette dignité de dire, écoutez, je suis là depuis des années.
L'honneur aurait appelé Gérald Darmanin à présenter au président de la République sa démission pour reconnaître la faute de l'administration dans cette affaire.
Parce qu'il défend aujourd'hui très mal son dossier, oui, Gérald Darmanin devrait démissionner.
La patronne des Verts, Marine Tondelier, le président du RN, Jordan Bardella, et le chef des socialistes, Olivier Faure, qui réclame la démission du ministre de la Justice. Est-ce qu'il peut rester à son poste, Cécile?
C'est pas n'importe qui, Gérald Darmanin. Il est ministre depuis plus de 9 ans. Il a été ministre du budget, il a été ministre de l'intérieur pendant 4 ans, et il a été ministre de la justice. Il est ministre de la justice. C'est-à-dire qu'en fait, les trois administrations très impliquées qui justifient le fiasco de cette situation, et d'ailleurs qui est un fiasco très documenté, il a été à leur tête depuis 9 ans. Je me demande aussi pourquoi c'est pas lui-même qui se dit qu'il aurait, on peut imaginer d'ailleurs, puisque je pense que le président de la République est aussi très responsable, qu'il aurait pu au moins présenter sa démission. Peut-être que le président aurait dit non, finalement, c'est collectif, etc. Enfin, ne pas dire qu'il y a eu une faute, ne pas reconnaître la faute, ça donne quand même un sentiment très désagréable. Mais il a un précédent, hein, Darmanin, c'était après la finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe.
La Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, pardon. Il avait dit, des énormités. Il avait dit des énormités, il avait menti, et il est toujours là. Et je trouve que ça manque de dignité, en fait.
Ça manque de dignité, Jordan Bardella parlait d'honneur, Charles. Au nom de l'honneur, il aurait dû démissionner.
Non mais à la limite, effectivement, après le match de foot où il avait raconté n'importe quoi sciemment ou par incompétence, je ne sais pas, là, une démission aurait été justifiée. Je trouve que si on le démissionne maintenant, à mon sens, on changera de sujet par rapport à ce drame, et donc on ne réglera pas les causes de ce drame. On fera simplement sauter le...
Vous avez dit, on le démissionne.
Oui, parce que c'est pas lui qui va démissionner tout seul. Il démissionnerait que sous la pression. Je pense que du coup, on ne s'attaquerait pas aux causes de ce problème, parce qu'on aurait l'impression d'avoir réglé le problème du laisser-aller judiciaire et du manque de travail de certains effectifs enquêteurs par la démission du ministre. Ça me paraît une erreur. Je pense que honnêtement, moi je ne suis pas darmaniste pour un sou. Je pense de toute façon que ce bloc central est voué à une mort certaine et prochaine, mais je pense que comme ministre depuis ce drame, il fait plutôt son boulot, c'est-à-dire que quand il remobilise les parquetiers et les services de police et de gendarmerie, quand ils demandent que les 70 000 plaintes soient remises en haut de la pile et qu'on traite tout ça avec plus de méticulosité. Je trouve que depuis le début, c'est pas délirant ce qu'il fait.
Je peux pas m'empêcher de penser, Cécile, que vous avez été ministre et que vous avez démissionné. C'est pas rien la démission d'un ministre. symboliquement.
Oui, et ça, c'est possible. Alors, c'était des circonstances très différentes, mais c'était une question de mettre en accord ses convictions, une réalité politique, une défaite électorale en 2014 très large de la gauche, deux ans après l'élection de François Hollande. Et pour moi, quand même, je le lis avec la manière dont on a de considérer la politique. Justement parce qu'il a dit qu'il fallait traiter les 70 000 dossiers, Charles. En fait, c'est du foutage de gueule, il le sait lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une petite réunion dans son bureau pour se dire, allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme grosse annonce pour essayer de faire oublier la catastrophe. Il sait que c'est pas possible. Et c'est le même Darmanin qui a expliqué que la priorité, c'était les opérations PlaceNet, et où on a enlevé des enquêteurs qui travaillaient sur des viols sur mineurs pour aller participer à ce type d'enquête, parce qu'on prend des uns
mais ça a
des
marché, autres. Les opérations PlaceNet, par exemple.
Non, mais en fait,
c'était efficace, hein, les opérations PlaceNet.
Alors, Non, mais donc, il vaut mieux pas s'occuper des viols sur les enfants.
Non, mais c'est juste que... Si c'est vous voulez, ça, Charles. Moi, je veux bien, mais pas du tout, mais les... Il ne va pas, on va pas arrêter de lutter contre le trafic de drogue parce qu'on veut traiter d'autres types de sujets.
C'est pour ça qu'on fait une fausse priorité tous les deux mois. Dès qu'il y a un sujet qui arrive dans l'actualité, non, on dit que c'est la priorité. C'est ça qui est malhonnête. Et l'autre élément.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut qu'il fasse rien dans ces cas-là.
Non, il faut qu'il fasse des vraies choses.
Qu'il démissionne et qu'il se fasse remplacer par Aurore Berger. On va aller loin.
Ce que vous vous dites surtout que ça changerait rien.
Moi, ce que je dis, c'est que le cœur du sujet, c'est pas ce pauvre Darmanin. Le cœur du sujet, c'est un système judiciaire et policier qui n'est plus suffisant pour traiter la délinquance et la criminalité en France. Pourquoi ? Parce qu'on met 10 milliards d'euros de budget sur la justice et qu'on en met 650 sur la protection sociale. Les retraites, l'assurance chômage, la sécurité sociale, etc. Moi, je dis, prenons-en déjà 10 sur la protection sociale, qu'on appelle protection sociale, mais qui est en fait notre chienlit généralisé. Et mettons-en 10 sur la justice. On aura déjà 20 milliards d'euros de budget sur la justice. On pourra peut-être recruter un ou deux procureurs pour mieux traiter les viols sur mineurs.
Alors d'abord, en fait, on va pas se dire qu'on va moins bien soigner les gens pour essayer de lutter.
C'est pas moins bien soigner les gens, Cécile, on le sait
donc,
bien.
À chaque fois, Charles essaye de faire dériver le débat. Je vais revenir sur le sujet.
Je ne vais pas dériver le débat, il y a un problème de budget.
Oui, il y a un problème de budget, mais qui a fait établir ses budgets depuis bientôt 10 ans qu'Emmanuel Macron...
Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ils ont augmenté le budget de la justice
en même temps,
de plusieurs milliards.
Et en même temps, le ministère de la Justice est le ministère sur lequel le ministère du budget fait le plus de gel. C'est-à-dire qu'on dit au moment du vote du budget, regardez, on augmente le budget, et ensuite on dit, ah oui, mais attention, vous n'allez pas pouvoir le dépenser. La Cour des comptes l'a très bien documenté. C'est le ministère sur lequel il y a le gel et le surgel. Alors ça paraît technique, mais c'est là où la démagogie... Moi, je vais vous dire une chose, je n'en peux plus des politiques qui, justement, disent ça, c'est la priorité. Le narcotrafic, c'est la priorité. Et puis ça, c'est la priorité en méprisant les gens qui travaillent, en mettant une pression insupportable. Mais parce que quand on dit vous allez traiter,
se barrent en courant du palais de justice quand à 16h45.
Ah, mais ça suffit,
Charles. C'est une réalité factuelle. Mais c'est factuel. Comment vous voulez
que ça marche ? Des milliers de magistrats qui travaillent du matin au soir.
Oui, il y en a.
Quand on dit 70 000 plaintes en moins d'un mois, est-ce qu'on croit sérieusement que c'est possible ?
Mais non, mais il n'est pas question d'en traiter. Il n'est pas question d'en traiter 69 999 plus une. Il est question de traiter celles pour lesquelles, justement, il y a des éléments. Regardez le cas de la petite Elsa, qui est une autre victime de ce Jérôme Barella. C'est un cas dans lequel l'expertise gynécologique avait confirmé la version de la victime,
de la
plaignante Rosa. Eh bien, ça fait partie typiquement des plaintes qui doivent avoir une suite immédiate. En revanche, il y a des plaintes dans lesquelles il n'y a vraiment aucun élément parmi ces 70 000. Et celles-là, évidemment, elles ne vont pas être prioritaires. Celles qui sont prioritaires, c'est celles où il y a quelque chose qui peut être fait.
Enfin, on sait très bien que de toute façon, les moyens sont insuffisants. Quand un magistrat demande une expertise psychologique, il faut 1 an et demi, 2 ans avant qu'elle soit faite. Pourquoi aussi ? Parce qu'on ne paye pas, parce qu'on bloque les crédits et qu'on ne peut plus payer les prestataires.
Arrêtons de rembourser le psychologue, payons des expertises psychologiques.
Vous allez nous le dire au 32-16 à présent. Sur la place de Gérald Darmanin, sa responsabilité au sens noble du terme de ministre et son rôle désormais politique, est-ce qu'il doit démissionner ? Vous nous le dites au 32-16 ce matin. Merci à tous les deux, Cécile Duflo et Charles Consigny. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vous mette d'accord ce matin à la une du journal de 8h justement. On sera en direct de Florence dans le Gers où les obsèques de la petite Liana seront cet après-midi à 14h30. Et puis l'économie, ce sera avec vous Emmanuel Lechypre. Emmanuel, avec la Coupe du Monde, la bière va couler à flot, le vin beaucoup moins.
Oui, sauf que c'est la consommation d'alcool dans le monde qui va baisser au cours des prochaines années, et pas seulement celle de vin.
A tout de suite sur RMC pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'émotion sera forte cet après-midi à Florence, dans le Gers, où la jeune Liana sera inhumée dans la plus stricte intimité familiale après une dernière cérémonie d'hommage ouverte au public. Nous serons sur place dans ce journal. Face au regain de violence sur fond de trafic de drogue, ils réclament des armes létales. La police municipale de Nantes fait grève aujourd'hui. Et Téhéran qui tempère l'enthousiasme de Donald Trump qui annonce la signature d'un accord de paix ce week-end.
Florence va dire au revoir à Liana.
La ville du Gers va rendre un dernier hommage à la jeune collégienne de 11 ans, plus d'une semaine après la découverte de son corps dans un silo agricole. Julie Brault, service police-justice, vous êtes l'envoyée spéciale RMC sur place en direct ce matin avant l'inhumation. Dans la discrétion familiale, il y aura un temps de recueillement, une cérémonie ouverte au public avec Julie, beaucoup de monde attendu.
Oui, les proches de Liana ont appelé tous ceux qui le souhaitent à les entourer pour partager leur douleur. Amis, parents d'élèves ou simples habitants, ils seront nombreux tout à l'heure pour se réunir à partir de 14h30 au cimetière de Florence. Matteo et Louis louperont les cours cet après-midi pour prononcer leur dernier au revoir. Eux qui essaient tant bien que mal de conserver un souvenir heureux de leur ancienne camarade de classe.
On était en primaire ensemble, on était dans le même bus, on était au collège ensemble aussi. C'est dur.
Et c'est vous qui avez insisté auprès de vos parents pour aller à son enterrement ?
Oui, parce que c'est quand même important, c'est une camarade de classe, donc il faut quand même y aller.
Lors de la cérémonie qui se veut sobre et digne, les proches de Liana lui rendront un dernier hommage, probablement en lisant des textes, un moment qui s'annonce insoutenable, soufflent certains habitants, encore hantés par le nom de Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de la petite fille, et qui sera finalement inhumé en fin de journée dans la plus stricte intimité familiale.
Julie Brault, service police-justice, envoyé spécial RMC en direct de Florence ce matin. Une grève ce vendredi à Nantes, celle des policiers municipaux face à la flambée de violence qui secoue la ville, marquée par 4 règlements de compte. En quelques semaines seulement, sur fond de trafic de drogue, ils vont débrayer à 15h cet après-midi pour réclamer davantage de moyens et notamment des armes létales, ce que Johanna Roland, maire socialiste de la ville, a toujours refusé. Reportage Martin Lange, correspondant à RMC dans l'Ouest.
Areski habite en face du square où un jeune homme de 18 ans a été abattu par des hommes à moto la semaine dernière. Pour lui, armer la police municipale serait une bonne chose.
C'est des policiers comme tous les autres. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas armés. C'est une protection pour eux et pour la population.
Un peu plus loin, Oulay, elle, doute qu'une seule mesure suffise à enrayer le cycle infernal des règlements de compte.
Combien de personnes qu'on a tuées depuis un mois ? Mais ce n'est pas ça la solution, venir ici, rester dans le quartier et repartir.
Elle préférait une présence policière plus soutenue. Mais sans armes, les agents estiment qu'ils ne peuvent plus patrouiller dans les quartiers les plus sensibles. Fabrice Monoury est brigadier chef depuis 25 ans.
On doit quitter les lieux. Et on laisse en fait l'ensemble de la population. Les situations peuvent engendrer un doute sur le sens de notre travail.
C'est pour cela qu'avec ses collègues, il débrayera cet après-midi et ira manifester devant la mairie. Céline Perret-Marty, déléguée force ouvrière.
Pour nous, il y a une urgence. On nous a donné tout ce qu'il était possible de nous donner jusqu'à aujourd'hui. Les pistolets à impulsion électrique qui sont des équipements dont on ne pourrait plus se passer. Mais les faits auxquels on a affaire aujourd'hui, nous estimons que ce n'est plus suffisant.
Des policiers qui redoutent aussi des départs dans leur rang alors que plusieurs polices municipales s'arment à Brest ou encore à Saint-Nazaire.
Cela fait maintenant 4 minutes précisément que 500 000 lycéens, élèves de première planche sans calculatrice sur une épreuve anticipée de mathématiques inédite comptant pour 2% de la note finale au bac. Une manière, selon le ministre de l'Éducation, de revaloriser la matière trop souvent délaissée par les filières littéraires et technologiques. 833 000, c'est le nombre de demandes déposées pour bénéficier de l'aide grand rouleur. C'est l'une des informations que vous a révélées RMC hier soir. L'autre, c'est qu'il va falloir patienter pour en bénéficier de ce chèque de 100 € jusqu'à mardi ou mercredi, nous dit Bercy, qui évoque un afflux de dossiers pour justifier ce retard de presque 2 semaines. Une aide carburant à l'heure où les cours du pétrole repartent à la baisse sous les 90 $, des marchés optimistes aux annonces de Donald Trump, qui après avoir menacé de frapper l'Iran très fort hier, s'est ravisé jusqu'à évoquer la signature d'un accord, possiblement ce week-end, peut-être en Europe, sauf que pour le moment, on n'y est pas vraiment, Romain Hougue, il y a beaucoup de points d'interrogation.
Oui, à commencer par le plus important, l'Iran va-t-il signer cet accord ? Pour l'heure, Téhéran indique n'avoir rien tranché. On est bien loin de l'optimisme montré par Donald Trump dans le bureau ovale qui assure que le guide suprême iranien Mojtaba Rahmanei aurait validé le texte. Ensuite, la question c'est que contient cet accord ? On sait assez peu de choses en fait, si ce n'est qu'il prévoirait, selon le président américain, la réouverture totale du détroit d'Ormuz et l'impossibilité pour l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Sur X, le premier ministre israélien israélien Benjamin Netanyahou rappelle, lui, que Donald Trump avait promis que tout accord devait inclure l'élimination du stock d'uranium enrichi détenu par les Iraniens. C'est un point majeur pour Israël, allié le plus proche des États-Unis. Et on ne sait pas ce qu'il en est dans ce projet d'accord. Enfin, quand et où pourrait-il être définitivement conclu? Eh bien, à ce sujet, Donald Trump a évoqué quelques pistes. Son vice-président J.D. Vance pourrait se rendre dès ce week-end en Europe pour le signer, avance le président américain, sans donner plus de détails.
Et Donald Trump qui n'assistera pas à la troisième cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde à Los Angeles.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et ce sera la troisième cérémonie après le Canada, ce soir à Toronto, opposé à la Bosnie-Herzégovine, 21h. La première avait lieu hier soir à Mexico. Le Mexique s'impose face à l'Afrique du Sud, 2-0, rencontre marquée par des heurts devant le stade avant le coup d'envoi. Affrontement entre policiers et manifestants, des images que souhaitent éviter les États-Unis. Ils font leur entrée dans la compétition la nuit prochaine, 3h du matin, face au Paraguay. Nicolas Pelletier, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC en direct de Los Angeles, où l'accent a été mis sur la sécurité. Jamais, Nicolas, un tel dispositif n'a été déployé pour une Coupe du Monde.
Oui, et même sans la présence du président américain, la sécurité sera donc sur les dents. Un dispositif hors norme, selon le shérif du comté de Los Angeles, qui a souhaité rassurer tous les supporters en affirmant que ICE, la police de l'immigration, ne réalisera aucun contrôle d'identité autour des stades. Des milliers de policiers déployés dans cette ville qui réalisent son entraînement avant de recevoir les Jeux Olympiques en 2028. Une menace est prise très au sérieux par les autorités, notamment le FBI, celle des drones. L'espace aérien sera complètement modifié pendant les matchs du Mondial. Le patron de la police locale parle même du plus important dispositif de sécurité qu'il a vu en 29 ans de carrière. Et comme si la tension n'était pas assez forte, Los Angeles va connaître 48 heures sous très haute tension. Quelques heures après ce match entre les États-Unis et le Paraguay, la Cité des Anges accueillera l'équipe iranienne qui disputera son premier match en terre américaine. Pas le droit à l'erreur, car l'image promet de marquer l'histoire et de faire le tour de la planète.
Nicolas Pelletier à Los Angeles en direct ce matin. L'autre défi de ce mondial, ce sera la gestion de la chaleur. 32 degrés hier pour le premier entraînement des Bleus à Boston. Le deuxième aura lieu dans la journée. Il sera ouvert au public à 4 jours de leur entrée en lice face au Sénégal. Les joueurs de l'équipe de France font partie des favoris. C'est aussi l'avis de Paul Pogba, le champion du monde, et l'invité de Jérôme Rotten ce soir. Rotten sans flamme, 18h sur RMC. Occasion pour lui de nous dire quelle équipe est la plus forte, les Bleus de 2026 ou ceux de 2018.
Les meilleurs joueurs du championnat allemand, meilleur joueur du championnat français, meilleur buteur du championnat espagnol. Aujourd'hui, non, c'est sûr qu'elles sont beaucoup plus fortes. Après, je sais pas, je pourrais pas dire au niveau groupe parce que ça, c'est très, très, très important dans des compétitions comme ça. C'est le groupe qui joue et aujourd'hui, bon, ils ont montré qu'ils pouvaient très, très bien jouer ensemble aussi. Au niveau des changements, quand tu enlèves un joueur, surtout devant, attention.
Attention, l'interview de Paul Pogba à retrouver en intégralité 18h ce soir sur RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde, tous les matchs en direct comme celui de cette nuit. La victoire de la Corée du Sud qui a renversé la République tchèque 2-1.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal, il est 8h08, il est l'heure de parler d'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Nous allons consommer toujours moins d'alcool.
Eh oui, la consommation d'alcool à l'échelle de la planète devrait reculer au cours de la prochaine décennie, nous dit le cabinet IWSR, alors que la population mondiale en âge de consommer légalement de l'alcool devrait augmenter de 9% d'ici à 2035, eh bien la consommation, elle, baisserait de 1%, l'équivalent de 2 bouteilles de spiritueux ou d'une caisse de vin par personne et par an. Alors, il y aura quand même des marchés en forte progression, comme l'Inde, le Mexique, la Colombie, le Vietnam, mais ça ne compensera pas le recul de presque 20% attendu sur les plus grands marchés, la Chine, les États-Unis, l'Europe. Alors, pourquoi cette baisse? Eh bien, il y a la flambée du coût de la vie, il y a l'évolution des habitudes alimentaires, et notamment l'organisation des repas, les préoccupations sanitaires, l'essor des médicaments amaigrissants. Bref, nous allons consommer moins d'alcool.
Et alors, c'est surtout la consommation de vin qui va reculer?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui, effectivement, qui va le plus reculer, nous dit l'IWSR. Mais attention, les volumes de spiritueux et de bière devraient diminuer aussi, au profit de nouvelles catégories de boissons, comme les cocktails en canette, les boissons faiblement alcoolisées ou carrément désalcoolisées. Pour la France, baisse du marché du vin en volume attendu, oui, mais à peine en valeur. Ça veut dire que les Français vont continuer à boire moins, mais mieux. Le sans-alcool ou le faible alcool va nettement progresser. Ça, c'est pour les vins rouges, évidemment, à degré d'alcool élevé que la baisse sera la plus marquée. Et pour la bière, eh bien, on est sur une quasi-stagnation, voire une baisse des perspectives de consommation. Par contre, là encore, hausse attendue de la consommation de bière sans alcool.
Et je vous entendais dire que la population mondiale en âge de consommer légalement de l'alcool va augmenter. Ouais. On a appris hier que Warren Zaïre-Emery serait le seul joueur de l'équipe de France qui n'a pas accès au bar de l'hôtel, parce qu'il a 20 ans et que c'est 21 ans dans le Massachusetts, comme dans de nombreux États américains. Les chiffres du jour, Emmanuel Lechypre.
Allez, le gazole 2,02, le samplon 95, 1,96. Pour ces deux carburants, on est à peu près stable au cours des derniers jours. Par contre, la bonne nouvelle, c'est la baisse des prix du pétrole avec les bonnes nouvelles venues du Moyen-Orient. On a cassé enfin la barre des $90 le baril. On est à 89,3. On est au plus bas depuis 3 mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et le gaz, dans la foulée, on perd 3 € sur le mégawattheure.
Merci beaucoup, Emmanuel Lechypre. Il est 8h.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, Arnaud Demange va venir nous faire rire avec l'actualité. À 8h30, dans le face-à-face, l'invité de Marie Chantret, c'est le général de l'armée de l'air, Patrick Dutartre. Sommes-nous de nouveau, si j'ose dire, proche d'un accord entre les États-Unis et l'Iran? On essaye d'y voir un peu plus clair sur RMC et BFM TV. Puis alors, juste après, ça y est, la Coupe du Monde, c'est parti. Les dernières infos, c'est sur RMC. 3 cérémonies d'ouverture, des bars qui vont se remplir en France. Vous saurez tout en direct à 8h50 sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Avec une abeille, et donc c'est comme ça que j'ai fait un plan à trois dans les jardins de l'Elysée. Pardon, on discutait un peu hors antenne. On discutait un peu hors antenne avec Victor et Elise. J'ai pas entendu que ça commençait. Ça a commencé, l'émission a commencé.
C'était avec qui le plan à trois?
Je ne vous dirai rien. Bonjour Mathieu, comment ça va?
Ça va Arnaud, bonjour.
Alors vous allez bien, vous n'êtes pas couché trop tard tous avec la Coupe du Monde? Parce que c'est la Coupe du Monde. Il y avait 3 cérémonies d'ouverture hier, une dans chaque pays organisateur, le Canada, le Mexique, les États-Unis. 3 cérémonies, c'est trop. Voilà, c'est comme les enfants qui ont des parents divorcés qui ont 12 Noël. C'est trop, trop gâté. C'est une grosse période pour les ados d'ailleurs en ce moment, parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais il y a aussi le bac. Hier, c'était le début des épreuves de français. Heureusement que les matchs n'avaient pas encore commencé, parce que tu révises ton Becherel toute la journée et le soir, tu entends les joueurs. Dans l'équipe, on croit au jour d'aujourd'hui que l'important c'est que c'est nous qu'on a gagné la victoire. C'était bien de taper des points sur les i. À 1-0, rien n'était écrivé. Et voilà, le coach il a fait la causerie à la mi-temps et c'est pas tombé dans l'orteil d'un sourd. Après, je crois que le prochain match, pour pas qu'il ait perdu, faille qu'on s'entraîne à l'entraînement et qu'on mettrait 2 fois les bouchées doubles, histoire de pas rester sur le carrelage. Et tu vas te coucher là-dessus et derrière, tu dois commenter du Balzac pour ton bac, t'es mal barré. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de maths. Mathieu, qu'est-ce que ça fait, 1-1? Prolongation? Non, n'importe quoi. Zéro, nul.
La ministre des Sports, Marina Ferrari, a offert des pierres magiques aux Bleus.
Oui, vous avez vu ça? Des pierres magiques pour les encourager. C'est des pierres chargées avec de l'énergie. C'est un peu comme mes bracelets, quoi. Parce que des pierres déchargées, c'est vrai que c'est naze. Combien de fois t'en as besoin et tu te dis merde, il me reste 1% sur ma pierre, je peux pas aller au bout. C'est des pierres qui peuvent aider à gagner. Alors, comment ça marche? Tu dois la frotter. Après, faut juste la garder dans le short pendant tout le match. Et quand un attaquant adverse s'approche d'un peu trop près, tu te jettes à la gueule. Alors, la grosse nouveauté de cette Coupe du Monde, c'est pour la première fois, il y a 48 équipes qualifiées au lieu de 24. C'est un format qui a été spécialement étudié pour permettre aux Italiens de revenir en Coupe du Monde. Et bon, ça a foiré. Mais heureusement, on a la Jordanie quand même. Et Curaçao. Bref, les plus grandes sélections vont s'affronter. Ne ratez pas Canada-Bosnie.
Ce soir.
Et aussi Qatar-Suisse. Également Haïti-Écosse dans le week-end. Bref, si vous aimez le beau sport, vous allez être gâtés parce qu'il y a la finale de la NBA en ce moment.
Alors, on suit aussi sur RMC d'ailleurs.
On a tout nous sur RMC. Alors, selon une étude, la Coupe du Monde pourrait coûter jusqu'à 14 milliards d'euros de pertes de productivité aux entreprises. Parce que les salariés, ils pourraient ne pas aller au travail, ils se sont couchés trop tard ou alors ils arrivent déchirés avec la gueule de bois. Il y a des matchs à 3-4 heures du mat. Hein. Enfin, ce que Victor Pourchet appelle la grasse matinée.
Ouais, c'est vrai,
on se lève à 1 heure. Je me demande ce qu'on en dit d'ailleurs sur BFM Business avec Edwige Chevrillon et Emmanuel Lechypre.
Banquier, bonjour. En ce moment, c'est la Coupe du Monde. Ramenez la coupe à la maison. Allez, les Bleus, allez. Mais les salariés vont-ils perdre en productivité ? Emmanuel Le Chypre. Emmanuel ? Emmanuel, je t'avais dit de ne pas regarder Suisse-Qatar cette nuit.
Mais Moumoun, Suisse-Qatar, le match des blindés, je ne pouvais pas rater ça. C'est la Suisse, c'est mon deuxième pays de cœur, après l'Allemagne. Et Guernesey. Et les îles Caïmans.
Oui, bien sûr.
Et Panama. Non, et moi, si à Suisse-France, je suis pour la Suisse. On a toutes nos économies là-bas. Faut pas que des Français les défoncent. Ils vont se venger sur nos sous. Allez les Suisses! Allez les Suisses! Oh, j'adore. Ça me donne envie de faire l'hélicoptère.
Oh, Emmanuel, tu es un coquin.
Non, non, mais avec ma cravate. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent.
Oh, tu sais, on est sur BFM Business. Oh. Emmanuel, tu es un redoutable footballeur. Viens me faire du pressing. Oh. Toi qui es si fort.
Oh, je vais te marquer à la culotte.
Mon Mbappé fiscaliste. Mon Dembélé des six caves obligataires. Mon Olysé Deutsche Bank. Je suis ton Neymar de l'amour.
Tu veux dire que tu vas simuler?
Mais non, enfin, gros bêta. Bon, on va les laisser conclure. C'est mieux comme ça. Bon week-end tous. Et à lundi. Profite des
bons week-end, Arnaud. Arnaud qu'on retrouve en podcast quand on veut avec l'application RMC et en tournée partout. Partout en France, à Jonzac, Épinal, Gaillac, Le Garric, Reims, Avignon, à Paris, au Solo le 25 juin prochain. Je précise que c'est un spectacle RMC. On est radio officielle de la Coupe du Monde et du spectacle d'Arnaud Demange.
Deux événements majeurs.
8h19.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h19, c'est une info RMC. Ce matin, les aides de grands rouleurs du gouvernement n'ont pas été versées. Ça devait être fait sous 10 jours. Il y a 10 jours, il y a un peu moins. Mais ça sera fait normalement la semaine prochaine. Donc 3 semaines de plus que prévu. Jonathan est en ligne avec nous dans le Maine-et-Loire. Bonjour Jonathan.
Bonjour RMC.
Vous êtes un chauffeur-livreur, vous êtes un grand rouleur?
Oui. Mais
vous avez fait la demande?
Non, c'est ma femme qui l'a fait pour son travail.
D'accord.
Elle fait 55 km par jour, donc on a fait la demande dès le 27. Et comme j'ai de la clé sur l'antenne, bon, en fait, c'est une grosse blague. Parce qu'en fait, ils nous disent sous les 10 jours, et j'ai encore regardé ce matin, il y a une demi-heure, là, c'est marqué traitement en cours. Donc,
ouais. Bon, Jonathan, vous n'êtes pas seul, hein. On parle de 800 000 ouais. personnes. On a énormément de messages ce matin aussi sur cette question-là, des grands rouleurs qui attendent leur aide carburant. On avait promis que ça irait vite.
Et on a par exemple Nicolas sur le WhatsApp 0612 424 424 qui nous dit justement, cette prime carburant, j'ai toujours rien reçu et franchement c'est long. Il nous explique cette situation. Je suis au SMIC et je fais 80 km par jour pour aller travailler. Alors forcément ça a des conséquences sur son quotidien. On a aussi Ali qui lui est très fataliste, grand rouleur. Il a fait sa demande, il dit bon, j'ai toujours rien reçu, mais en même temps c'était que 100 €, c'était déjà des clopinettes. Donc finalement, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour moi? On sent beaucoup de résignation dans les messages.
La résignation, donc ça devrait arriver quand même. Il faut le préciser, ça devrait arriver, mais c'est l'information qu'on vous donne ce matin sur le retard. Et c'est dire, merci Jonathan, on a coupé parce que la liaison était pas terrible. Merci Jonathan de votre témoignage. Mais si on a demandé 100 €, c'est qu'on en a besoin aussi. C'est quand même ça aussi la réalité. Vous continuez à témoigner au 32-16 si vous le souhaitez, bien entendu, sur RMC. Dans un instant, sur RMC et BFM TV, l'invité de Marie Chantrey, c'est le général de l'armée de l'air, Patrick Dutartre. 8h21.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Général Patrick Dutartre.
Bonjour Marie Chantrey.
Un habitué de nos antennes, merci beaucoup d'être là. Je le rappelle, vous êtes Général de l'Armée de l'Air, pilote de chasse et ancien leader de la patrouille de France. On a besoin de vous ce matin pour y voir plus clair sur ce qu'il se joue en ce moment sur le front de la guerre. Quelques heures après avoir promis de nouvelles attaques, fortes, très fortes, le président américain a fait marche arrière en invoquant un accord avec l'Iran. À la surprise générale. Écoutez-le, c'était hier soir.
Nous avons mis fin à la guerre avec l'Iran aujourd'hui et ils ont accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires. Ce que nous avons exigé, c'était tout l'objectif. C'était 95% de l'enjeu.
Déclaration fracassante, générale. Mais dans la foulée, l'Iran a déclaré qu'aucune décision définitive n'a été prise concernant un accord de paix avec les États-Unis. Qu'est-ce que fait le président américain? Vous, le militaire que vous êtes, il se donne un peu d'air uniquement avant un week-end chargé, les 250 ans de l'indépendance américaine, un G7 qui arrive, c'est 80 ans à lui-même?
Oui, effectivement, le timing est plutôt pour ne pas reprendre les hostilités tout de suite avec tout ce qu'il y a à fêter, en fait. Mais c'est vrai qu'on se perd un peu et le monde est suspendu au poste du président Trump. Et on se demande parfois s'il ne transforme pas ses désirs en réalité. Mmh. En fait, ce qui semble clair, c'est qu'évidemment, il veut trouver un accord avec l'Iran et les gardiens de la révolution, notamment sur le nucléaire. Ça, c'est son obsession et on peut le comprendre.
L'obsession israélienne de son allié Netanyahou, même si on se demande si, au vu des déclarations des derniers jours, c'est encore un allié. C'est la 39e fois que Donald Trump s'avance sur un potentiel accord. 39e fois depuis l'annonce de cessez-le-feu. Franchement, effectivement, ce matin, ce vendredi matin, quand il se projette sur une signature, peut-être dans le week-end, peut-être en début de semaine, vous, le militaire que vous êtes, vous doutez, vous vous dites que c'est faisable?
Tout est possible. Dans le monde dans lequel on vit, c'est ça qui est extraordinaire quelque part, c'est que tout est possible. Mais c'est vrai qu'on a quelques doutes quand même, parce que à force de nous annoncer tous les jours tout et son contraire, on garde un certain recul en fait sur les choses. Ce qui semble intéressant, c'est que il y a ce qu'on appelle un MOU, Memorandum of Understanding, qui est un classique chez les anglo-saxons, notamment les américains, pour définir ce qu'on appelle un accord cadre sur les sujets qu'on pourrait aborder. Alors, lui, il transforme ça en accord de paix, mais dans l'esprit iranien, je ne suis pas sûr du tout que ce soit la même chose.
C'est un accord finalement préliminaire, une forme de compromis de vente, mais on n'est pas du tout à la signature de la maison, si vous me permettez l'image. Mais quand même, un président qui s'avance beaucoup, parce qu'il dit hier, Mojtaba Khamenei, retranché dans ces montagnes iraniennes que personne n'a vu publiquement, a validé cet accord avec, je le disais en début d'interview, un Iran qui dément encore ce matin d'être allé si loin.
Oui, c'est ça. On disait hors plateau que les Iraniens comprenaient le Trump, mais que le Trump comprenait pas l'Iranien, en fait, entre parenthèses. Et donc, il a envie de cet accord cadre, ça c'est clair, avec des sujets qui pourraient être abordés, mais les détails de ce qui peut se passer, ça peut prendre des semaines, peut-être même des mois. Ce serait bien, évidemment, de disposer cet accord cadre. Il évoque même une signature en Europe, mais on garde un certain doute, en fait. Hein. On espère tous, en fait, que, évidemment, les hostilités se termine et qu'on libère les trois d'Hormuz.
Mais ça sera long, très long. On va revenir sur l'accord et les points précis. Juste, là encore une fois, au général que vous êtes, à la maîtrise de la guerre, de ce qu'elle est sur le terrain, il y a ce que les États-Unis disent et puis il y a ce que l'armée américaine aussi, dans le même temps, fait. Parce que cet accord, cette annonce d'accord a été précédée de menaces très fortes dans l'après-midi même et la veille, de nouvelles frappes américaines en Iran. Cet allié américain, notre allié américain, encore une fois, très imprévisible, est-ce que c'est une force de votre point de vue? Est-ce que ça affaiblit l'ennemi, lui donnant finalement des signaux contradictoires?
S'agissant de l'armée américaine, CENTCOM, eux, ils essaient d'être assez pragmatiques, en fait, donc se tenir prêts à n'importe quel engagement.
Même avec un président tel que Donald Trump.
C'est toute la difficulté, les difficultés des généraux américains, de CENTCOM et du chef d'état-major des armées, de faire, en fait, l'interface, si vous voulez, entre des postes, des décisions qui vont un peu dans tous les sens, et puis pour l'armée, de garder un cap. Si vous faites bouger comme ça vos troupes au même temps que les postes, c'est insupportable pour les troupes. Les forces sont prêtes. Ce qu'il faut noter, c'est que les derniers bombardements ont été quand même beaucoup plus significatifs qu'on imaginait.
Vous parlez dans la nuit de mercredi à jeudi. Ne s'attendait pas à une telle violence.
Oui, c'est, disons que
et force de feu.
Oui, c'était assez important. Il y avait déjà eu des frappes la veille, mais là, elles étaient beaucoup plus conséquentes. Et effectivement, on sent qu'une campagne de bombardement intense était en mesure d'être déclenchée. Et finalement, je Trump Trump a menacé l'Iran de lâcher entre guillemets toutes les forces qu'il avait préparées, et puis il a fait volte-face parce que les Iraniens, on lui dit bon, on s'est monté jusqu'à Mojtaba Khamenei et que il est pas contre, et donc peut-être que Trump a transformé cette information en disant on est prêt de signer. En fait, il le souhaite tellement que il confond peut-être parfois la
prophétie autoréalisatrice et ce qu'est la réalité véritablement. Encore une fois, vous dites tout est prêt encore, mais sur le plan opérationnel, encore une fois, l'armée américaine est différente de l'armée française, mais ça doit être une gestion particulièrement plus que délicate, je ne sais même pas si c'est le bon mot.
Oui, mais ça c'est le rôle vraiment des généraux, c'est de donner des consignes les plus simples possibles, les plus claires possibles à leurs troupes, c'est-à-dire vous tenez prêt, vous préparez vos missions pour ce soir, mais il peut y avoir un no-go, ce qu'on appelle un no-go, c'est-à-dire qu'on n'y va pas. Et c'est ce qui s'est passé à mon avis pour hier soir, c'est-à-dire qu'ils étaient effectivement prêts à une campagne intense de bombardement, les objectifs étaient désignés, et ça allait effectivement débuter une campagne aérienne à nouveau, mais extrêmement forte sur site. Et du fait de ce qui s'est passé la veille, je pense que les Iraniens ont lâché quelque chose, entre guillemets, en disant, par exemple, ce mémorandum of understanding, le MOU, ou cet accord cadre est arrivé jusqu'à Mojtaba Khamenei, qui ne l'a pas rejeté, par exemple.
Mais qui ne l'a pas encore accepté.
Et voilà.
Avec des mots, et j'y reviens, on entendait le président américain qui parle de cet accord, qui parle aussi d'un Iran défait. Il dit ils n'ont plus les moyens de cette guerre, le pays est totalement détruit, plus d'aviation, plus de militaires. Ils vont donc signer cet accord. Si on entend certains observateurs spécialistes aujourd'hui de l'Iran, certains disent que les Iraniens sont habitués à souffrir, ils sont habitués aux sanctions, ils sont habitués à serrer la ceinture, et finalement, c'est même pas les négociateurs qui en paient le prix le plus fort, et puis que finalement, ces quelques semaines de cessez-le-feu ont aussi permis à l'Iran de se réarmer, de retrouver une certaine forme de puissance. Est-ce qu'au vu des connaissances de votre spécialité de cet environnement, c'est quelque chose que vous pouvez attester? L'Iran n'est pas désarmé aujourd'hui?
Enfin, moi, je suis sceptique quand même sur leur capacité à se réarmer, c'est-à-dire à réindustrialiser certains composants ou certains matériels militaires critiques. En revanche, ce dont ils disposent encore, c'est des stocks. Alors, toute la question est dans ces stocks.
De missiles, donc.
De missiles et de drones, enfin les Shahed, les fameux Shahed, missiles croisières et les missiles balistiques.
Et on le voit encore ces derniers jours dans le détroit d'Ormuz, détroit balistique sur des navires, sur des cibles bien précises. Encore une fois,
oui,
ça
mais
leur permet.
Il semblerait quand même que
nuire à l'armée américaine.
Bien sûr.
Oui.
Mais dans quelle proportion, c'est toute la question en fait.
Oui.
Et ces fameux souterrains dans lesquels seraient stockées des armes, où personne n'a une vraie visibilité en fait sur ce qu'il reste. Ce qui est sûr, c'est que la capacité de nuisance iranienne existe encore, mais à quel niveau, c'est toute la question.
La capacité de nuisance, et on va venir sur ce point très précis, parce que Donald Trump là aussi s'avance en disant qu'une fois l'accord signé, le détroit d'Ormuz, qui est une voie de circulation maritime aujourd'hui, on voit majeure, et on voit ses conséquences avec sa fermeture et son blocus, pourrait rouvrir peut-être même ce week-end. Là, encore une fois, on est dans le déclaratif et on connaît le style du président américain. Ce week-end, non, on sait très bien que cela va prendre du temps, d'autant que s'interroge sur la présence ou pas de mines, parole contre parole encore. Logistiquement, le militaire que vous êtes dit, ça va être un temps beaucoup plus long que ce que peut dire le président américain.
Oui, surtout entre l'accord éventuellement accepté au plus haut niveau des autorités iraniennes et de descendre jusqu'aux troupes, aux gardiens de la révolution sur la côte du détroit d'Ormuz, là, ne serait-ce qu'il y a toujours un temps, si vous voulez, entre la décision éventuellement politique, on ne sait pas trop comment la communication s'opère, surtout qu'il y a beaucoup de délégations locales. Moi, il me semble quand même que ce détroit pourrait s'ouvrir rapidement, mais il faudrait évidemment un accord. Et je pense qu'il n'est pas du tout hermétique. En ce moment, il y a quand même des passages qui sont annoncés assez discrètement. Certains bateaux coupent leurs transpondeurs, c'est-à-dire leur balise d'information.
Qui leur permettent d'être repérés, effet, et qui leur permettent de passer.
Et dans certains cas, de passer pour les plus téméraires, en fait. Et s'ils ne viennent pas des côtes iraniennes, les Américains les laissent passer. En tout cas, c'est ce qui semblerait dans... Donc, il n'est pas totalement hermétique. Mais c'est vrai qu'on a tous besoin que ce détroit se rouvre pleinement et sans ambiguïté.
Avec des menaces du président américain, encore une fois, c'était il y a à peine 24 heures. Si pas d'accord, menace de frapper à nouveau. Avec juste, j'aimerais ce point précis de l'île de Karg, qui, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, désormais sont habitués à cette nouvelle géographie. Mais pourquoi l'île de Karg? Parce que c'est là où transite et où est stocké le pétrole iranien en masse.
Alors l'île de Karg est assez intéressante parce que évidemment le président Trump l'a évoqué spécifiquement.
Absolument.
Il l'avait pas fait depuis un certain temps. Mais cette île, elle est au fin fond du Golfe Persique. Hein, et c'est là en fait d'où sort toute la production d'hydrocarbures iranienne. Donc on a tous envisagé à un moment en tant qu'expert militaire qu'il pourrait y avoir une opération entre guillemets spéciale sur cette île. Et je pense que ça démange quelque part le président Trump. Et si les choses devaient dégénérer, il est possible que non seulement il y ait une campagne de bombardement, mais également une action offensive sur cette île précisément.
Qui impliquerait donc, possiblement, une action au sol, une action terrestre. On a vu ces bateaux, ces barges,
oui.
Et ces images qui peuvent s'apparenter à une forme aussi de propagande, de dire en gros, nous sommes prêts possiblement à arriver sur cette île.
Ce serait pas un débarquement complet qu'on peut envisager de troupes terrestres sur le territoire iranien proprement dit, mais sur cette île en particulier qui pourrait faire l'objet d'un coup de force quelque part avec une opération aéro-terrestre. Et ça, quelque part, c'est envisageable, absolument.
Et là, on rentrerait dans totalement autre chose. Encore une fois, vous disiez, hier, Donald Trump a sans doute dit « no go », mais si les choses devaient tourner dans les prochaines heures différemment, et son imprévisibilité très connue, ça pourrait arriver, ça pourrait être décidé.
C'est ça qui est terrible dans le monde dans lequel on vit, c'est que tout est possible. En fait.
Oui.
Tout est possible, c'est très difficile de faire des conjonctures sur ce qui va se passer demain.
Sur ce mémorandum, ce projet d'accord sur lequel le président américain s'avance, il y a le Hormuz, il y a aussi le nucléaire. Là encore une fois, une forme d'opacité quant à ce que serait cet accord sur le nucléaire. Ils n'auront pas l'arme, dit le président américain, mais ça serait relégué finalement au second plan, au vu dans un temps plus lointain. Est-ce que ça peut satisfaire son partenaire israélien, Benjamin Netanyahou, qui en fait une condition, j'ai envie de dire, vitale?
Oui, alors moi j'ai toujours dit depuis des dizaines d'années que l'Israélien ne serait jamais, je dis bien jamais, l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Mmh. Parce que c'est une question existentielle pour eux. Donc ils surveillent bien sûr cela, mais à mon sens aujourd'hui, les capacités d'enrichissement, les capacités de produire une bombe ont vraiment été repoussées de mois, voire d'années avec tous les bombardements qu'il y a eu. Cela dit, Donald Trump veut des garanties pour la suite, et c'est tout l'objet en fait de sa détermination. Et il est vraiment focus, entre guillemets, sur ce point-là. Hein, et on peut le comprendre. Et donc, par contre, ce qu'il a demandé comme sortir ce qui a été enrichi comme matériel nucléaire, comme uranium nucléaire, dans un pays tiers, sûrement pas aux États-Unis. À mon avis, les Iraniens ne l'accepteront jamais. En revanche, que ce soit vers la Chine ou que ce soit vers la Russie, c'est des choses qui pourraient éventuellement s'entendre. Mais à mon avis, on n'en est pas là.
Qui traduisent aussi, général, une profonde, au fur et à mesure de ce conflit, divergence de vue entre un Donald Trump et un Benjamin Netanyahou, qui, finalement, dans l'approche, la chute du régime, un changement de régime du point de vue américain, ça n'est plus... Ou est-ce que ça a été un jour la priorité?
Moi, je
à la
pense
différence
pas
des Israéliens.
Vous avez tout à fait raison, Marie, de le souligner. À mon avis, c'était pas la priorité des Américains. En revanche, effectivement, c'était un souhait très fort de Benjamin Netanyahou. Le nucléaire, je pense qu'il prend du recul dessus parce que, compte tenu de tout ce qu'ils savent, c'est pas demain que l'Iran va se doter d'une arme. En revanche, les proxys, les missiles balistiques, ça, c'est un vrai sujet aussi. Le droit d'Hormuz pour Israël, c'est pas la priorité. Alors pour les Occidentaux, éventuellement les Américains, c'est quand même un facteur déterminant.
Mais on apprend quand même que le président américain a pris le soin de contacter le premier ministre israélien une fois l'annonce de cet accord en vue annoncé publiquement. Mais là encore, on soigne et on n'insulte pas l'avenir. C'est
absolument
sans doute ça le sens d'une démarche pareille.
Complètement. Et ce que dit d'ailleurs Benjamin Netanyahou nous donne plus d'idées sur les points de l'arc-en-ciel que Donald Trump le donne lui-même. Donc ça, c'est intéressant à lire.
Général Patrick Dutrat, à ce moment de l'interview, peut-être un mot sur cette annonce de cette semaine. Le SCAF, vous savez, le projet d'avion de combat franco-allemand, abandonné, sans revenir sur les raisons et économique et après 9 ans économique et industriel, vous avez raison de le mentionner, quel terrible échec quand on voit la Chine se surarmer, se préparer, la Russie. Que dit le militaire ce matin quant à cette annonce ?
Alors moi, je suis pour une force européenne dissuasive dans le monde, une vraie. Donc tout accord commun qui ne fonctionne pas, ça me fait un peu de la peine. Cela dit, je comprends aussi Dassault qui sait faire effectivement des avions de 5e ou 6e génération tout seul.
Donc on n'a pas besoin des Allemands.
Oui, mais je pense que on n'a peut-être pas besoin d'Allemands pour faire un avion, mais on a besoin des Allemands pour une armée à facette européenne dissuasive.
Mais vous dites quoi ? Énorme gâchis. Après, encore une fois, je le rappelle, 9 ans de projet d'études pour en arriver là.
Oui, c'est quelque part, c'est décevant. Parce qu'on est capable, je rappelle, parce qu'on l'évoquera peut-être, mais la patrouille de France est actuellement aux États-Unis à survoler.
Et on y vient, justement. On y vient.
Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les appareils qui ont survolé New York, c'est des appareils franco-allemands. Dassault Dornier, à l'époque, qui était une formidable réussite.
Et donc, ça peut donc fonctionner. En effet, terminons avec ces images magnifiques et aux auditeurs qui n'ont que le son. La patrouille de France, vous, l'ancien leader de la patrouille de France, qui a survolé le ciel new-yorkais pour les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Derrière le spectacle, quand même, une opération diplomatique et logistique parfaitement organisée.
Oui, absolument. Et vous savez que ça me touche particulièrement, parce que moi, il y a 40 ans, j'étais à leur place, en fait, au-dessus de New York.
Et vous avez survolé la grosse pomme.
Absolument. Avec mon camarade Pascal Ferraud.
Souvenir ému, j'imagine.
Oui, absolument. C'est pratiquement les mêmes images, mais c'est vrai que c'est un symbole extrêmement fort, la patrouille, de rayonnement, en fait, au-delà de l'armée de l'air, de la défense, de l'aéronautique nationale, mais de notre pays. Et c'est un facteur diplomatique extrêmement important. Les Américains apprécient. Ça faisait quand même.
Et ça fait la une de toute la presse américaine.
Mais oui, il y a eu une du Wall Street Journal, quand même. C'est pas mal. Et c'est un facteur. Il faudra penser à l'avion de remplacement de l'Alpha Jet.
Mais par cette démonstration, et on voit cette une du Wall Street au même moment, derrière tout ça, derrière le décorum, il y a de la diplomatie là aussi. Nos alliés et nos relations avec les Américains ne sont pas toujours au beau fixe. Normalement, Emmanuel Macron et Donald Trump doivent se voir dans 48 heures. C'est ça qui se joue également et qui se raconte.
Exactement. Et puis aussi, une coopération dont on parle moins, c'est la coopération militaire sur le terrain entre les Américains et les Français, qui est extrêmement bonne depuis des dizaines d'années.
Et on est très fiers de la patrouille de France. Merci beaucoup, Général Patrick Dutrave, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h47 et vous êtes toujours bien sur RMC et BFM TV.
Merci Marie Chantrey. Dans un instant, vous restez bien sur RMC. Les cérémonies, la cérémonie d'hier soir, les dernières infos, des nouvelles des Bleus et le carton annoncé pour les cafetiers restaurateurs. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. La Coupe du Monde a officiellement commencé et c'est bien sûr sur RMC.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Bonjour Virginie Fulpa.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans un instant, vous nous donnez toutes les infos sur la cérémonie d'ouverture. Enfin, la première des trois cérémonies d'ouverture. Début des compétitions, des grosses affiches, des grosses rencontres. Notamment, il y a un Brésil-Maroc demain à minuit. Martin Bourdin, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes reporter RMC. Ces matchs sont très attendus en France, notamment dans le monde de la restauration qui se frotte déjà les mains.
C'est le mois à ne pas rater, Mathieu, notamment dans le bar géré par Roméo dans le nord de Paris. Bar décoré avec des dizaines de drapeaux de toutes les tailles, des 48 équipes qualifiées accrochées un peu partout au milieu, des 21 télés, notamment autour d'un carré d'écran géant devant lesquels se sont regroupés hier soir 200 supporters du Mexique pour le match d'ouverture. Première grosse soirée donc pour le patron qui a évidemment pris les devants pour ne manquer de rien et surtout ne pas manquer de bière.
Ah, je vous emmène à la salle des fûts, ma salle préférée. Et voici.
Ah oui, donc là on est face à une montagne de fûts, vous savez combien il y en a là, vous savez combien il y a de
2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais là on va toujours autour de 2000 litres à peu près. On peut pas ne pas avoir de bière, c'est interdit. On a un stock sécurité, on a évidemment augmenté pour la Coupe du Monde. Et tout au long, parce que les Bleus valent en finale.
Ça veut dire quoi ? On l'a augmenté. Combien vous avez d'habitude de stock et combien vous en avez là ?
Bah là, typiquement, sur les gros matchs, on va passer 3000 litres de bière, à peu près. Et normalement, sur une soirée normale, on va être aux alentours de 500 litres.
Ça représente quoi sur le chiffre d'affaires de l'année ?
Tout mon budget FNB, 20% va être fait là sur le mois qui arrive.
F&B, c'est food and beverage.
Donc boisson et nourriture.
Ça va être énorme, il va falloir qu'on envoie. C'est des grosses, grosses soirées. Là, l'avantage, c'est que les matchs commencent tard. Donc on peut se proposer un peu le matin, même s'il faut prendre les livraisons, faut les mettre en place. Et puis après, on ouvre.
Et on ouvre avec 5 serveurs de plus par rapport à un début d'été normal. Dans cette
on a tous écarquillé les yeux sur les 3000 litres de bière. Bon, ça, c'est pour ceux qui vont voir le match dehors. Mais il y a toujours deux équipes lors de ces gros matchs. Martin, il y a ceux qui sont dans les bars. Il y a ceux qui préfèrent regarder ça à la maison.
Tranquillement assis dans le canapé, vu dégagé sur la télé avec les copains ou la famille, ou les deux, pourquoi pas, autour de nous. Et quand on est à la maison, Mathieu, on mange quoi?
Moi, j'ai envie de dire pizza.
Ouais, le classique pizza bière foot, évidemment. Youssef, il l'a bien compris, ça fait 10 ans qu'il gère une pizzeria parisienne et comme à chaque grand événement sportif, il sait que les journées risquent d'être un petit peu plus longues.
D'habitude, nous, on tourne juste le soir, on est à 60-70 pizzas. Là, je pense qu'on peut largement doubler. Les jours de match de France, on se fait vraiment dévaliser, quoi. On arrive en fin de service, on n'a plus de pâte. On se prépare beaucoup plus de farine, beaucoup plus de stock, ça c'est clair. Il y a les plateformes aussi, Deliveroo et Uber Eats. Surtout qu'ils ont fait une offre, un but marqué, livraison offerte. Donc je pense qu'on va se faire cartonner sur les plateformes et en sur place aussi. Dès que c'est le rush, on est deux derrière le four. Et on en voit quoi.
Bon, pour se faire cartonner, comme il dit, et aussi en profiter, Youssef Millard, il est en train de remonter une télé du sous-sol de son restaurant pour l'installer en salle et permettre aussi à ses clients de suivre les matchs.
Alors, c'est plus tout à fait les mêmes discours qu'il y a 4 ans, Martin. On sent un peu plus de sourire.
Rappelez-vous, la Coupe du Monde 2022, la France en finale, la fête, oui, mais la fête en doudoune. Je vous rappelle que la Coupe du Monde avait débuté mi-novembre.
Oui, c'est vrai.
La finale, c'était juste avant Noël, donc on a un petit peu moins profité des terrasses et des matchs en extérieur. Cette Coupe du Monde en juin et juillet, ça fait donc 8 ans que la restauration l'attend de pied ferme, confirme Franck Delvaux, le patron en Ile-de-France de l'UMI qui représente les bars et les restaurants.
Globalement, quand même, la restauration est quand même plutôt en difficulté. Ça va permettre de refaire les trésoreries. Quand il fait beau et que c'est une belle affiche pour un établissement, ça peut être 20-30% en plus parce que les gens sont là, vont consommer et en plus, s'il fait beau, ça donne un air de fête. Donc, c'est une bonne chose. Il faut déjà gagner le premier match et puis derrière, l'engouement ira en montant et le chiffre aussi.
Avec un petit bémol quand même, hein, l'impossibilité de diffuser toutes les rencontres à cause du décalage horaire et des matchs programmés à 3 ou 5 heures du matin parfois.
Certains font des demi-blanches. Hein. Martin Bourdin, regardez bien RMC Story le matin. De temps en temps, vous verrez Martin Bourdin avec de grosses cernes. Ça dépend des matchs.
8h55.
RMC, le mondial de Virginie.
Et Virginie Fulpin est toujours avec nous. Nous, on a l'habitude de pas dormir, hein, Virginie. Ça y est, la Coupe du Monde est lancée, la première cérémonie d'ouverture et les premiers matchs au Mexique hier avant d'arriver au Canada ce soir.
Oui, sport, fêtes et manifestations, c'est le triptyque de ce début de Coupe du Monde à Mexico jusqu'au coup d'envoi. Les enseignants ont manifesté aux abords du stade Azteca de la capitale mexicaine, mais hier soir, la fête et le football ont pris le dessus. Shakira, pour faire vibrer les 80 000 spectateurs du stade, c'était la vraie, hein, pas une fausse, hein, Shakira, comme la rumeur a enflammé les réseaux sociaux. Franchement, il était temps que le football commence, parce que visiblement, certains s'ennuyaient un peu et trouvaient tout et n'importe quoi pour occuper leur temps. Et peu importe la pluie, ça n'a pas empêché les Mexicains de fêter la victoire de leur équipe contre l'Afrique du Sud par centaines. On va dire que celle de la Corée du Sud, 2-1 contre la République tchèque cette nuit, nous a un petit peu moins enthousiasmés.
Parlez pour vous, moi j'ai parié sur la Corée. Je suis très content. Les Tchèques ont semé la pagaille au Mexique.
Alors pas sur le terrain, d'accord, mais sur la route. Hein,
c'est moi. Si t'es champion,
le chauffeur du bus de l'équipe a mal négocié un virage près du centre d'entraînement de la République tchèque. Il s'est retrouvé bloqué en travers de la route. La circulation à Mexico, c'est déjà tout un poème, mais alors là, en plus, plus personne pouvait passer. Pendant une heure, tout était bloqué à cause de cette équipe.
Ah, il y a encore une cérémonie d'ouverture ce soir.
Hein. Ah, on en a 3 pour le prix d'une. Hein. Enfin non, si vous assistez aux 3, vous payez 3 fois. Hein. C'est la FIFA, on va pas non plus exagérer. On a bien compris que rien n'était gratuit. À Toronto, ce soir, on aura même droit à une touche française. Non, pas la French Touch, mais VG Dream. Dit tout de suite, ce sera un autre titre parce que c'est quand même une cérémonie d'ouverture pour le monde entier. Si on met aller les Bleus, je pense qu'il y en a qui vont être vexés.
Les Bleus qui veulent faire honneur à Didier Deschamps.
On le sait, c'est sa dernière Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Kylian Mbappé a accordé une interview à M6 hier soir. Il veut gagner pour Didier Deschamps, entre autres, mais il prévient aussi. Après, il veut pas voir le sélectionneur à la tête d'une autre équipe. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'Italie pourrait vouloir engager Deschamps pour redresser son équipe nationale qu'en a bien besoin. Commentaire de Kylian Mbappé. Franchement, ce serait moche. Didier, il est les Français, il est à nous.
Encore des supporters privés de Coupe du Monde.
Ça, c'est la conception du football aux États-Unis. Toi, oui, tu peux entrer sur le territoire. Toi, non. Là, ce sont les supporters ivoiriens qui font les frais de la politique américaine. La Côte d'Ivoire espérait 500 supporters. Ils seront qu'une poignée. Les États-Unis ont refusé les visas de gens qui pourtant avaient déjà leurs billets pour les matchs. Ça devient la Coupe d'un tout petit monde. Alors, franchement. Mais la coupe à la.
Rappelez la coupe à la. On gérera ça mieux. Merci Virginie. La Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC Radio Officielle. Événement à suivre avec nos reporters sur place aux États-Unis, Mexique, Canada. Au total, 40 personnes déployées pour vous permettre de suivre cette Coupe du Monde. Dans un instant, les GG, les grandes gueules avec Alain Marchal. Bonjour Alain, quel est le programme?
Eh bien, nous allons regarder les appels politiques pressants qui demandent la démission de Gérald Darmanin. La France va fêter les 90 ans des congés payés. C'est une chose. Alors, on avait ces 15 jours de congés payés en 1936. Aujourd'hui, c'est 5 semaines, plus 11 jours fériés, plus 10 jours de RTT. Est-ce que la France a trop de jours de repos et de vacances? On en parlera avec nos grandes gueules. Et puis, le rapport de la Cour des comptes qui propose d'envoyer davantage de migrants dans les centres en région, plutôt que de les stocker. On parle de personnes humaines, hein, de les stocker en région Île-de-France. Ben, vous venez en discuter au 32-16 avec les grandes gueules.